RMC entre les poteaux.
Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, avec toute la team des poteaux, on a décidé d'élire notre équipe type du top 14. Bien évidemment, il va y avoir des débats qui fâchent, bien évidemment, ça va être subjectif. C'est un exercice difficile, mais on va essayer de déterminer poste par poste quel joueur a été le plus impactant cette saison. Et je parle bien de la saison régulière, c'est pour ça qu'on vous sort ce podcast le mercredi. J'en profite pour vous dire que l'épisode de lundi dernier est bien évidemment en ligne. Si vous n'avez pas tout suivi de la dernière journée de top 14 et de tous les rebondissements qui ont eu lieu, vous foncez, vous téléchargez, vous écoutez, vous abonnez à la chaîne podcast Entre les Poteaux. L'avantage de l'abonnement, c'est que ça vous permet d'avoir toutes les notifications qui tombent à chaque fois qu'il y a un épisode qui est mis en ligne. Et cette semaine, il y a beaucoup d'épisodes qui vont être dispo. Des entretiens des poteaux, Louis Carbonel notamment. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Même moi, je suis pas au courant de toute la programmation, tellement c'est la NASA, ce podcast. Les poteaux du jour pour cette équipe type. Wilfried Templier, Julien Landry, Pierre Thévenet et Edgar Tigo.
Salut tout le monde.
Salut les gars.
Salut à tous.
Alors là, je peux vous dire que là, on a sorti
la NASA, la NASA complète. Bah, ouais.
La cellule. La cellule.
Paul Boudéan, je te disais, en entretien, en plus de Carbonel, si tu veux tout savoir. Voilà.
Oui, c'est ça, Paul Boudéan, voilà, c'était lui que j'avais oublié.
Par Romain,
très bon entretien d'ailleurs, le troisième ligne de l'équipe de France et de La Rochelle. Les gars, qui mérite vraiment sa place dans cette équipe type du top 14? Est-ce qu'il faut récompenser les stars? Est-ce qu'il y a des révélations? Voilà, on va voir les joueurs qui ont porté leur équipe à bout de bras et puis on va déterminer les grandes questions de cette saison 2025-2026. Qui est le vrai MVP? Quel absent est le plus scandaleux? Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent y être et on n'a pas fait le bon choix? Est-ce que notre équipe type gagnerait le bouclier de Brennus? Ça, j'ai envie de le savoir. Et puis, on a demandé aux auditeurs des poteaux d'élire aussi eux leur 15 de l'année. Ils nous ont donné tout ça là, sur les 3-4 derniers jours sur X. Et à chaque fois qu'on élira notre joueur, on vous donnera le joueur qui a été choisi par les auditeurs des poteaux. Comme ça, on se fait un podcast très complet. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Oui.
Allez, c'est parti pour l'équipe type du top 14 version 2025-2026. Je vous explique le concept, ça va être très simple. On va faire des débats
aux gens aussi, hein,
poste
Nico,
par
parce que
poste.
C'est vrai que depuis deux jours déjà les gens disent oui, non, pas un tel. C'est sur les 26 journées de la saison régulière.
Exactement.
Du top 14. Donc
je
le nombre de matchs compte, c'est pas l'équipe de France, c'est pas la Coupe d'Europe, voilà.
Totalement. Si vous avez des impressions très très bonnes sur un joueur parce qu'il a brillé avec les Bleus ou lors de la Champions Cup, je pense bien évidemment moi à mes Bordelais, à mes joueurs de l'UBB qui ne sont pas qualifiés en top 14,
Bordelais.
Ça va forcément impacter la présence des joueurs de l'UBB dans cette équipe type du top 14.
Julien, tu rigoles, mais t'as imposé une quantité de thé montpelliérain à ta place.
Non, mais après, attention Pierrot, faut pas trop
victoire sur les 24 derniers matchs.
C'est on reviendra sur le lobbying de chaque journaliste RMC Sport pour ses joueurs. Ça c'est très beau. Donc voilà, on se focalise bien sur la saison régulière, les 26 journées comme le disait Wilfried. Et il y aura un débat poste par poste à chaque fois et une petite élection à la fin de chaque mini-talk pour déterminer qui est le meilleur joueur sur chaque position. Tous les journalistes ne participeront pas à tous les débats, vous allez voir, parce qu'on est nombreux autour de la table. Donc il y aura un petit casting à chaque fois déterminé. Les gars, on va se plonger tout de suite sur l'élection du meilleur pilier gauche de notre championnat. La rédaction a sorti trois joueurs qui se sont dégagés. Enzo Forletta, Montpellier. Baptiste Erdosio, Montpellier.
Ça commence.
Voilà, quand je vous parlais de lobbying, Landry, il est là. Et Akaladze, le pilier gauche de Clermont. Est-ce que il y aurait un autre pilier gauche qui aurait pu postuler?
Moi, je veux
peut-être
lever le doigt,
qu'on a dégagé ces trois-là. Vas-y.
Ouais, moi je veux lever le doigt. Alors on a évoqué Jean-Baptiste Gros, mais qui n'a fait que 12 matchs de top 14.
Ouais.
C'était trop juste. Et je disais à Pierre, il y a un Racing Man qui est passé sous les radars, c'est Gogi Chachvili.
C'est vrai.
Qui a fait 25 matchs. 25 matchs. Il a enchaîné les 11 premières journées. Il ne loupe ensuite que la 13e. 25 matchs pour un pilier gauche, jamais blessé. Je pense que Gogi Chachvili aurait pu lever le doigt et dire je veux m'inviter à cette table des meilleurs piliers gauche.
Moi j'en ai un petit, mais c'est plus un coup de cœur qu'autre chose, c'est Jeff Poirot qui a fait une saison fabuleuse en Champions Cup et en top 14. 20 matchs de top 14, très régulier sur les fondamentaux, très bon dans le jeu au sol. On a retrouvé un grand Jeff Poirot à 33 ans, donc je ne suis pas sûr qu'il méritait d'être dans cette élection, mais en tout cas il fait une très très grosse saison, Jeff Poirot. Bon, concentrons-nous sur nos trois joueurs. Forletta, Erdosio,
à chaque fois qu'il n'y a pas un Bordelais, par contre j'espère.
Non, mais vous allez voir que je vais être très lucide sur certains postes. Je vais même sortir des Bordelais de cette équipe type. Bon, on l'a dit, les gars, quand même, Montpellier est le meilleur pack de ce top 14 de cette saison régulière. Ça, je pense qu'on ne trahit pas de secret en disant ça, Julien.
Non, non, mais après, sur les deux dernières rencontres de Montpellier, il y a 6 pénalités récupérées en mêlée contre la section paloise, 5 pénalités récupérées contre le Loup. Et quand Montpellier va pas bien dans ce championnat, ils se reconcentrent souvent sur la mêlée, où ils ont quasiment martyrisé l'intégralité des packs de la saison. Il y a parfois eu des difficultés, notamment contre le Stade français au match aller du côté de Paris, parce que Paris a aussi l'un des plus gros packs de notre championnat. Mais clairement, aujourd'hui, et c'est ce que disent tous les observateurs, c'est que Montpellier a probablement le plus gros paquet d'avant et qui plus est la meilleure mêlée de notre championnat avec Didier Bess, avec deux premières lignes interchangeables. C'est pour ça qu'il y a eu débat Forletta, Erdosio notamment à gauche. Oui. Mais voilà, Enzo Forletta a fait une meilleure saison que Baptiste Erdosio, qui a eu du mal à digérer un peu sa sélection en Nouvelle-Zélande, la tournée de novembre où il a été un peu jeté au feu contre l'Afrique du Sud. Il a eu du mal à s'en remettre et Enzo Forletta, lui, pour le coup, a retrouvé son niveau qui avait fait de lui un international en 2021. Il a relégué Erdosio sur le banc qui revient fort. Mais Forletta, pour sa dernière saison à Montpellier, fait vraiment une très, très grosse saison en mêlée, dans le jeu, en défense. C'est un des tauliers de cette équipe-là et c'est pour ça qu'il est nommé parmi les meilleurs piliers de notre championnat.
Moi, personnellement, Perrault, j'ai été impressionné par Akaladze. Je me suis noté, est-ce que c'est pas le pilier gauche le plus sous-coté du top 14 à Akaladze ? Parce qu'on n'en parle pas, on n'en a
possible,
pas parlé, franchement.
Non, en tout cas,
à part sur le dernier run un petit peu de Clermont, mais bon, il fait une saison quand même. En fait, il est ultra régulier, très solide.
21 matchs pour Akaladze. On parlait évidemment du nombre de matchs de Gogi Chachvili, mais Akaladze aussi très régulier. 17 titularisations. Il a prolongé à Clermont. Il est arrivé de Béziers en Pro D2 l'année dernière. Et c'est vrai qu'il progresse de plus en plus. Il est inamovible en mêlée fermée, mais bon, ça, c'est le propre d'un pilier géorgien. Et il est aussi présent dans le jeu. Il marque 5 essais sur la saison, notamment lors du dernier match face à Bordeaux, où il sort du banc et il marque. Par rapport peut-être à Gogi Chachvili dont parlait Wilfried, je pense qu'il a un peu plus d'impact balle en main sur le terrain. Il fait un peu plus mal, on le voit plus en tout cas. Il n'est pas que dans les tâches de l'ombre, on le voit beaucoup sur le terrain. Et c'est vrai qu'il fait une très grosse saison et il méritait d'être dans la discussion face à la mafia montpellierenne.
Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait sur ce poste-là ? Oui, Lady, est-ce que vous avez une petite préférence ? Forletta, Erdosio, Akaladze ? On choisit qui ?
Eddy, je sais pas ce que t'en penses, mais la mêlée montpellierenne, il faut un pilier. Pilier Montpellier, hein, donc.
Je pense qu'il n'y a pas photo, messieurs. Je pense qu'il n'y a quand même pas photo. Hein. Julien le rappelait. Forletta et Montpellier, pour parler un peu vulgairement, a tout défoncé sur la saison. Donc je veux dire, Forletta. Pour moi, il y a vraiment pas photo.
Allez, un vote pour Forletta, Wilfried. Et il s'en va.
Et il s'en va à Perfor.
Forletta.
Pour le plus grand malheur d'ailleurs du MHR qui aurait tout fait pour aimer le garder, mais malheureusement il s'en va. Mais
lui aussi, il était venu sur RMC il y a quelques semaines, il n'était pas ravi de partir non plus. Donc on a l'impression que ça s'est fait sans que personne soit d'accord cette affaire.
Pierrot, tu votes pour qui ?
Forletta aussi.
Oh bah c'est fait. Jus, du coup je vais te donner ton nom et je vais te demander ton avis, mais c'est fait. Enzo Forletta.
Ah vous savez mon amour pour Baptiste Erdosio, mais Forletta a été meilleur qu'Erdosio cette saison, donc Forletta mérite amplement.
Allez, Forletta pour la team des poteaux, élu meilleur pilier gauche de notre championnat.
C'est même pas de l'admiration, du respect, c'est de l'amour maintenant. Mais mon amour pour Baptiste Erdosio.
Avec Erdosio.
Ah oui.
Ah mais je peux vous assurer.
Ils sont amoureux.
Ce sera quoi le soir du 27 juin, messieurs ?
Ah oui, il y a eu des scènes de liesse après la Challenge Cup, là. On sentait.
Il y a eu des photos, il y a eu des photos sur les réseaux sociaux.
Il n'y a pas eu de mêlée, on n'a pas eu de vidéo de mêlée, mais bon.
Non, vaut mieux pas. Déjà qu'il cassait des glaçons, j'avais peur pour mes épaules.
Les auditeurs des poteaux ont voté pour le meilleur pilier gauche de notre championnat. Et sachez que c'est le Clermontois Akaladze qui a remporté l'élection, 45,7% devant Baptiste Erdosio, 39,9%. Enzo Forletta est loin derrière, 14,4%, comme quoi le ressenti des auditeurs devant leur télé. Alors attendez, je me le note, Akaladze pour les auditeurs des poteaux. Voilà. On bascule tout de suite sur le poste de talon. Jordan Ouellezé, Julien Marchand, Tolo Foua, une nouvelle fois de Montpellier. C'est fou, la diaspora montpelliéraine là, qui est présente en force. Est-ce qu'on voit un autre talon qui aurait pu postuler éventuellement, les gars ? On en a sorti ces trois-là. Ouais, non.
Si, je suis sérieux.
Maxime Lamotte fait une bonne saison. Fait
non, Nico Terrasse du top 14. Nico Terrasse fait une bonne
saison. Montoya
aurait pu, également.
Non, mais Nico Terrasse fait une bonne saison. On parlait de la et même Massa, clairement, pour le coup.
Un peu plus irrégulier, j'ai trouvé Bernabé Massa, mais il a énormément joué et c'est vrai qu'il a des actions un peu. Qui saute aux yeux.
Des grosses périodes, en fait.
Des grosses périodes.
Non, mais si on parle des premières lignes qui ont été dominantes cette année, il y a évidemment le Stade français et Clermont, donc on aurait pu aussi citer des joueurs de ces équipes-là.
C'est vrai. Après, je pense que là, on peut aller vite hein, sur les talons. Hein, messieurs, il n'y a pas,
ouais,
y a pas
je
de photo.
Il n'y a pas trop de matchs.
Welese a écrasé la saison.
Est-ce que c'est pas la meilleure recrue de cette saison 2025-2026? Moi, je me suis posé cette question.
Il y a du monde. Il y a du monde pour ce titre-là. De meilleur recrue. Moi, c'est vrai qu'il a été énorme.
En fait, là où j'ai trouvé impressionnant, où il est Julien, c'est
surtout
que.
Surtout qu'il n'est pas recruté à cette saison, il est recruté la saison dernière, Nico.
D'accord.
Parce que c'est pas la meilleure recrue d'il y a deux ans.
Quand je prépare des questions comme ça, dites-le moi avant le podcast, les gars. Comme ça,
on empêche. On te laisse y aller.
Non, mais Julien, c'est l'activité de Welese. Il est monstrueux, mais dans beaucoup de secteurs, quoi, en fait.
Non, mais c'est clairement quand je dis qu'il y a deux premières lignes interchangeables au MHR. Alors évidemment, Tolofoa, il rentre dans le match, mais c'est le remplaçant idéal, Tolofoa. Il a disputé 17 matchs sous Ouélézé, 15 comme titulaire. C'est-à-dire que quand Ouélézé est disponible, il est systématiquement titulaire dans ce poste-là. Montpellier a aujourd'hui l'un des meilleurs alignements en touche. Et c'est grâce à Jordan Ouélézé qui est un excellent lanceur en touche. D'ailleurs, Antoine Batut milite souvent pour que Ouélézé soit préféré à Tolofoa. Mais c'est aussi un excellent talonneur de mêlée. Les piliers adorent jouer avec lui. Il a une activité débordante dans le jeu où on le voit souvent gratter. Il avance, il est puissant. Oui, c'est un monstre aussi dans ce rôle-là. Et il a mis au pli aussi tous ses vis-à-vis en termes de jeu. Donc je pense que là, pour le coup, il s'est imposé face à Tolofoa et face à toute la concurrence du top 14.
Tolofoa veut même être pilier droit maintenant, carrément.
Ouais, exactement.
Il n'a plus la place.
Oui, parce que c'est vrai que s'il y a Crabbe qui pousse derrière, donc Tolofoa va se remettre à droite.
Wilfried, t'as raison, Montoya a amené une certaine stabilité à la section paloise, hein, parce que la mêlée a été bonne cette année à Pau, avec la Claya, avec Kolachvili, Montoya, très bon dans le jeu. Alors c'est sûr qu'il n'est pas là pour postuler, car Wélézé est plus fort, mais Montoya, c'est vrai que aurait pu peut-être postuler le Pumas argentin.
Ouais, moi je me suis noté une question sur Julien Marchand, Will, parce que il joue pas beaucoup de matchs, Julien Marchand, cette saison, il en joue 12. Par contre, à chaque fois qu'il joue, il est très bon. On a l'impression qu'il y a une gestion quand même qui est un peu parfaite du stade avec ces cadres-là et surtout avec Marchand.
Il a repris son trône. Hein. Il y a eu la blessure de Movaca. Souvenez-vous, l'année dernière, Movaca était repassé devant. Là, Julien Marchand a mis tout le monde d'accord. Alors, il fait moins de matchs que Ouélézé. C'est pour ça qu'il ne peut pas postuler de la même façon. Mais il est à plus de 95% au plaquage. C'est deuxième meilleur gratteur toulousain. On parlait de lanceur pour Ouélézé. Bah, pour Julien Marchand, c'est à la perfection aussi. C'est un bœuf, Julien Marchand. Il a une aura, une expérience. C'est le capitaine aussi avec Dupont, avec Willis. Quand il est là, c'est pas pareil avec le Stade toulousain, et je pense qu'on le verra en phase finale. Donc seulement 12 matchs, c'est pas possible de consacrer un joueur qui a joué seulement 12 matchs parce qu'il est sur d'autres terrains en Coupe d'Europe ou en équipe de France.
Bon, Jordan Ouélézé à l'unanimité pour la team des poteaux. Allez, Jordan Ouélézé, meilleur talonneur du top 14. On va aller voir ce qu'ont choisi les auditeurs des poteaux. Julien Marchand, 40,1%. Ah, ben oui.
Les
gens, ils voient la valeur du joueur. On entend Marchand, on entend Ramos. Les gens, ils mettent ça. Ils réfléchissent pas, ils votent comme ça. On a bien précisé, et peut-être que tout le monde n'a pas compris, que c'était pas la valeur du joueur ou sa carrière.
Bien sûr,
12
non,
matchs, c'est pas, on peut pas consacrer un talonneur qui a 12 matchs. Et c'est comme ça à Toulouse, à d'autres joueurs pour jouer en top 14. Mais où est l'aisé, on est tous d'accord, il n'y a pas photo.
Et puis c'est des postes aussi où quand on est devant la télé, peut-être on est moins fixé sur les premières lignes, les deuxièmes lignes, les avances, ça ressort moins, peut-être des postes un peu plus invisibles. 40,1%
pour
Julien Marchand.
Pour le coup, à Toulouse, ils ont ici une densité au talon. Il a moins joué parce qu'ils ont aussi 4 talonneurs, alors non pas du même niveau, mais ils ont 4 talonneurs qui pourraient être titulaires quasiment dans la plupart des clubs du top 14, les 4. Ouais, c'est ça. Donc il y a aussi une gestion de la part du Gomola de ces talonneurs, quoi.
Ouais, c'est clair. Julien Marchand, du coup, pour les auditeurs des poteaux. Allez, on bascule sur le poste de pilier droit. 3 joueurs ont été sélectionnés par la rédac. Melikidze, Stade français, Joël Mercler, Stade toulousain, Will Patin, Montpellier, d'autres droitiers. Moi, j'aurais mis. On a hésité avec Awas aussi, qui a fait quand même une grosse saison, Julien, encore une fois.
Je pense.
Oui, ouais. Non, parce bon, qu'on je a, pense qu'on a cité les deux gauchers montpelliérains, on a cité les deux talonneurs montpelliérains.
Oui, on a mis un veto. Non, on a mis un veto.
On aurait pu citer les deux droitiers montpelliérains, effectivement, aussi, parce que Awas fait aussi une sacrée fin de saison. Il a notamment joué beaucoup lorsqu'Oung Patin s'est blessé au genou. Et il est revenu à un niveau assez impressionnant, Momo Awas, qu'il avait d'ailleurs amené en équipe de France. Alors on sait tous les problèmes après qui vont faire qu'il ne pourra pas retourner en équipe de France. Mais en termes de joueur de club, il est redevenu un pilier très très solide de mêlée.
On peut ajouter la Claya.
Ouais, complètement.
Parce que la Claya, 21 matchs hein, quand même, 16 titus hein, avec Pau. Hein.
Ouais, qui a retrouvé l'équipe de France aussi quand même aussi un petit peu.
Je pense que c'est un moment, ça a été dur aussi un peu. Enfin, c'est par période aussi. Les saisons sont longues, mais la Claya a fait beaucoup de bien à la mêlée paloise.
Mais il était revenu. Il avait signé à Pau pour se relancer hein, en arrivant du Racing. Et c'est vrai que très très performant tout au long de la saison. J'évoquais l'attelage en première ligne avec c'est vrai Montoya et Kolachvili. C'est aussi pour cette raison que le paquet d'avant palois quand même bien progressé, surtout bien avancé et a marché sur quand même pas mal de mêlées sur l'ensemble de la saison. Hormis évidemment Julien Landry, celle de Montpellier. On se souvient de la dernière rencontre à Montpellier il y a quelques semaines.
Ouais. Quand on est dans l'élection du meilleur pilier droit, on cherche forcément le plus gros destructeur de mêlée. Qui a le plus
détruit
ses adversaires, selon vous?
Giorgi Melekidze.
Il a été impressionnant, Pierrot.
Non, mais Melekidze, on a fait hein, la liste de toutes nos équipes types de la semaine sur la saison. Et en fait, Melekidze, il était tout le temps là. Parce qu'il est énorme en mêlée, tu l'as dit. Faut se rappeler que l'année dernière, la saison galère du Stade français, Melekidze est blessé. Sergo Abramijvili est blessé aussi. Et on parle des deux premières lignes de Montpellier. Mais Abramijvili, Melekidze et les deux frangins à l'OM1000, le Stade français a aussi quatre piliers de très très haut niveau et tu le disais, à la fois il est très costaud en mêlée et puis il est hyper efficace, il met 8 essais cette saison, en top 14, 8 6 sur les 12 premières journées, c'est-à-dire qu'en début de saison, c'était le meilleur marqueur du Stade français, et puis en plus c'est un personnage qui est assez incroyable avec ses mitaines là sur le terrain, on en entend peu parler parce qu'il parle pas très bien français, qu'il vient pas souvent voir les médias, mais je vous conseille un très bon article de l'équipe sur lui où on découvre, en fait c'est un personnage incroyable, il se frotte le ventre en disant garage à poulet, il est un peu la lumière du vestiaire.
Garage à poulet.
Il dit qu'il veut casser mêlée adversaire. Enfin, c'est vraiment un personnage assez incroyable. Et gagner le top tacorze, comme il dit lui. Et non, franchement, c'est à la fois un personnage important dans le vestiaire. Et puis sur le terrain, c'est monstrueux. Et puis il célèbre ses essais en envoyant les ballons dans les tribunes. Enfin, je trouve que c'est vraiment un des personnages assez sympas de ce top 14, du coup.
Garage à poulet, rien pour ça, il mérite d'y être.
En se frottant le ventre avec un sourire.
On l'avait vu en point presse l'année dernière à Montpellier où le Stade français en avait pris 30 et il était venu au point presse et on savait pas trop qu'il parlait pas très bien français quand le Stade français nous l'envoie. Donc on lui avait posé des questions et la première réponse, il avait dit touche mêlée arbitre. Touche mêlée arbitre. Et il avait dit ça pendant 5 minutes. Ça avait été incroyable.
Exceptionnel. Je voulais vous poser une question et surtout à Will. Est-ce que la progression de Joël Merkler, qui est quand même assez fabuleux cette saison, l'international espagnol, elle n'est pas plus impressionnante que la saison de Melekidze?
J'irai pas jusque là, mais elle est impressionnante parce que finalement, en pilier droit au Stade Toulousain, qui est quand même le leader, le champion en titre, d'Aldeguerri, Colombe, Malaise, Merkler, qui a pris le lead? Je suis pas sûr que vous puissiez répondre à cette question, moi non plus, mais je pense que Merkler finalement se place là avec ses 140 kilos, son 1m94, ses plaquages offensifs parce qu'il a une activité défensive dingue. Il a 10 titularisations, Aldeguerri c'est 8, et surtout sur les dernières saisons, je regardais ses titularisations, ça fait 1, 6, 8, 10. Donc je pense que Merkler est dans une trajectoire qui fait que s'il continue à travailler comme ça, même si ça tourne beaucoup au Stade Toulousain, on va voir en phase finale qui sera titulaire aussi, parce que c'est une vraie question. Hein,
mais justement,
parce que Dorian Aldeguerri a pu être en difficulté en phase finale de Coupe d'Europe. C'est la vraie question.
Mais c'est aussi pour ça, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de Toulousains dans l'équipe type par rapport à leur domination dans le championnat. C'est aussi parce qu'il y a énormément de rotations.
Il faut le dire aux supporters toulousains.
C'est ça. Il y a énormément de rotations dans cette équipe, avec en plus les périodes internationales où il y a beaucoup, beaucoup de monde qui part. Et tu l'as dit, il y a 4 talonneurs de très haut niveau, 4 piliers de très haut niveau, et à tous les postes quasiment. C'est ça. Donc c'est dur de sortir un mec par poste.
Ils se partagent beaucoup les matchs. Ouais.
La saison de Oung Patin à Montpellier, on a la sensation qu'il est devenu ultra régulier. Il a toujours eu cette image de, enfin moi j'ai cette sensation là de pilier quand même ultra spectaculaire,
déjà à Castres,
ultra puissant, déjà à Castres. Mais là il a ajouté une vraie régularité dans la performance, non, tout au long de cette saison.
Ouais, alors déjà, il a un physique pour
c'est un pilier, monstre. C'est un monstre.
Non, mais c'est un monstre. Quand t'es à côté de Wilfried Mpata, c'est une bûche, le garçon. Quoi. C'est une bûche très large.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est impressionnant. C'est une armoire normale.
Il peut jouer 8.
Non, mais il est impressionnant. Il est souvent utilisé, ce qu'il faisait d'ailleurs, c'est comme ça à Castres qu'il avait été un peu révélé sur les pénalités à 5 mètres là, où les castrés prenaient plus de pénalités, ils envoyaient Mpatin défier la ligne de défense. Et ils font beaucoup à Montpellier cette saison. Et Johan Codulo cesse de répéter que s'il n'avait pas choisi de représenter le Sénégal cet été, il aurait pu postuler pour les Bleus. Alors lui aussi a eu des problèmes avec la justice, donc je ne sais pas quel aurait pu être son avenir. Mais en termes de pilier droit, avec ce profil-là, très grand, très, en plus il est très mobile. Vous aviez fait le podcast avec Benjamin Dalmoral sur le physique, qui dit que c'est le joueur le plus explosif de l'effectif, mais le plus explosif avant et trois quarts confondus. C'est-à-dire que sur 3 mètres, c'est celui qui va le plus vite. Donc prendre un patin sur 3 mètres lancé, ça doit faire mal. Et oui, il a gagné en régularité. Il est revenu aussi, il est formé ici du côté de Montpellier. Donc, comme d'ailleurs Reda Wardi la saison prochaine, c'est des piliers qui sont heureux d'être de retour chez eux et qui a fait lui aussi une très très grosse saison.
Ouais. L'élection, les gars, j'ai envie de dire à l'unanimité, garage à poulet, mais.
oui, tu peux y aller.
Oui. Ah, tu peux y aller.
Moi, Melikidze. Moi, voter Melikidze.
Moi, voter Melikidze. Les auditeurs des potos ont choisi aussi Garage à poulet, 65,2%. Ah, c'est un plébiscite pour Garage à poulet.
Non, mais il était énorme. Puis le fait qu'il marque autant d'essais, en fait, c'est assez dingue.
Non, mais là,
il
n'y avait pas de débat avec avec Melikidze. Allez, le poste de numéro 4, les amis, on bascule sur la deuxième ligne. On a choisi Hugo Orad ou Vérac de Montpellier et Thibaut Flamand du Stade Toulousain. Est-ce qu'il y a un petit 4 là qui aurait pu se glisser là-dedans, selon vous? Moi, je trouve que la sélection là, elle est propre.
Paul Gabriel, c'est une belle saison avec le Stade français. On le voit moins, il marque moins que ces autres-là, mais il fait une belle saison aussi.
Mais Palu Gabriel ultra solide, mais des joueurs qu'on voit un petit peu moins peut-être. Mais en effet, Boris Palu, c'est un vrai succès à l'Union Bordeaux-Bègles, son transfert du Racing. Mais focalisons-nous quand même sur Oradou, Vérac et Thibaut Flamand. Eddy Hugo Oradou, il fait une saison XXL, à tel point qu'on le voit déjà futur patron du 15 de France sur ce poste-là, hein, tellement là il a été dominant.
Il est
top
devenu
14.
À peau, Eddy. Hein. On le voit sur le terrain, ses attitudes.
Non, mais c'est aujourd'hui le leader. D'ailleurs, Sébastien Piccheroni, le manager de Pau, dit certainement qu'il a dans son paquet d'avant peut-être la plus belle des pépites qu'il ait vues depuis de longues années. C'est vrai qu'il est au Royal dans les airs, capitaine de la touche. Hein, Pau rayonne dans ce secteur-là, très très bon ballon en main. Il y va aussi sur des grosses séquences défensives. Alors, peut-être qu'en équipe de France, je sais pas, Will, toi qui suis évidemment le 15 de France, ça a peut-être été un petit peu plus figue-mi-raisin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un véritable plébiscite. Et d'ailleurs, quand Hugo Radou n'a pas été là, la section paloise était quand même un petit peu moins bonne. Hein. Il est vraiment. Alors, on parle d'Oradou, peut-être sa dimension physique pêche un petit peu. Il est un petit peu léger, 105 kilos aujourd'hui pour le fils de Bibi Oradou. Mais c'est vrai que c'est un élément indispensable, évidemment, à la section paloise depuis maintenant au moins 2 saisons et demie pour le 15 de France à confirmer, ouais, même s'il a quand même gagné les tournois en 2025 et 2026. Mais il y a du monde en équipe de France. À Pau, c'est aujourd'hui.
Ouais. Non, il n'a pas passé le gap encore de la même façon en équipe de France. Mais par contre, moi, je vous le dis, c'est ce que je vois sur le terrain, ses attitudes. Quand il parle aux coéquipiers avec l'index en avant, machin, hein, comme ça, il est déjà patron, en fait, Oradou. Il a fait une saison stratosphérique.
Ouais. On va aussi se pencher sur le cas de Florian Vérac, qui a retrouvé un niveau international, Julien. Pas le joueur le plus exposé du pack de Montpellier, mais indispensable.
Mais le plus pénible.
Gogo Gadgetto.
Le plus pénible. Le plus discret, mais le plus pénible, peut-être, Florian Vérac.
Alors, qui a connu un moment difficile. Il a pris un carton rouge à la 6e journée au Racing pour. Un geste un peu d'anti-jeu, choc à la tête. Et du coup,
il est Vislard quand même aussi, il faut le dire. Hein. Oui, mais dans le bon. Enfin, c'est pénible, Vislard, c'est des compliments dans notre bouche.
Mais du coup, Johan Codulo l'a mis au frigo pendant 5 matchs en disant on ne peut pas te faire confiance parce que tu prends trop de cartons. Mais il voulait continuer à croire en lui et depuis la 11e journée, il est revenu dans l'effectif pour ne plus jamais en bouger. Il a enchaîné tous les matchs. C'est un poison en touche. Je pense qu'il est rentré dans la tête de tous les talonneurs du top 14. Une fois, Alexandre Bécognier a dit, mais c'est facile pour lui de prendre des ballons, ses bras, ils font 7 mètres. Et c'est vrai que quand Florian Vérague, il est lifté par les piliers du MHR, il se retrouve à une hauteur avec ses bras et ouais. C'est un poison.
C'est Vérague Nyama, quoi. Wemby. Ah,
exactement. Non, mais il est impressionnant. Wembag. Et formé à l'école toulousaine, qui plus est, donc des mains incroyables pour Florian Vérague. Je crois qu'il fait 30 offloads dans la saison pour un deuxième ligne. C'est juste impressionnant parce que il est capable de faire jouer derrière lui. On se rappelle de cet essai à Castres où il fait une passe derrière le dos pour Ngandebe. Et puis Wilfried en parlait, il a ce côté un peu poison, un peu vicelard, où il aime le combat, il aime le défi. Ouais, il y a deux images qui me reviennent. C'est donc ce match retour contre le Racing où il avait été très vexé d'avoir reçu ce carton rouge et il avait dit à ses coéquipiers dans le vestiaire, Hughes, je vais m'en occuper. Donc il avait passé son après-midi sur le dos de Hughes, le Racing Man. Et la dernière fois contre Pau, il y avait évidemment ce duel face à Hugo Oradou. Et je me rappelle cette scène à la 50e minute où Oradou vient percuter Vérague. Vérague lui met un tampon de l'espace. Oradou tombe par terre en simulant un peu une blessure. Et Vérague le regarde et il lui fait la main devant le visage. Non, ça va, arrête de pleurer. Mais c'est un poison. Mais c'est un.
Tu parles des offload, c'est dingue, hein, parce qu'il est, quatrième dans le top 14.
Ah oui. Ah
non, derrière Penaud, Niniashvili, Sowakula et devant Jalibert. Ah non, non, avec plus de matchs, hein. Il a 18 matchs et Jalibert 15, mais il a 30 offload. Ouais,
mais après, pour répondre à ta question, Nico, très discret. D'ailleurs, la dernière fois, il a reconnu, il a dit, je pense que j'ai pas le caractère, peut-être pour l'équipe de France, j'ai du mal à m'intégrer. Florent Vérague, si tu veux parler avec Florent Vérague, il faut lui parler de pêche, de chasse.
Ah oui, moi j'adore.
C'est quelqu'un qui est très nature et qui a du mal un peu à s'intégrer dans un collectif et donc il sait qu'il doit travailler sur ça s'il veut prétendre à l'équipe de France. C'est okay. un peu discret.
Il ira chasser avec Garage à poulet. À mon avis, ça peut faire un bon bilan.
Non, il les attrape à main nue, Melikidze.
Juste Will, rapidement. Alors, sans trahir de secret, mais on va teaser un petit peu notre débat sur le numéro 5. On a mis Thibaut Flamand dans les catégories pour être élu meilleur 4 et meilleur 5. Moi, la question que je voulais poser autour de Thibaut Flamand, c'est est-ce qu'il peut matcher avec Oradou et Vérague ? Et est-ce que c'est pas finalement lui le meilleur Toulousain cette saison, Thibaut Flamand, sur la régularité de cette saison régulière?
Bien sûr qu'il peut matcher avec il a peut-être moins de matchs.
Il a moins de matchs, c'est ça le truc aussi.
14, il fait 15 matchs. Mais franchement, Thibaut Flamand, c'est un deuxième ligne, il a une activité de troisième ligne, il prend les intervalles comme un centre, c'est un cerveau, c'est ce que on va mettre, parce que on va vous mettre ça aussi ce podcast sur le web à l'écrit. C'est depuis Brody Retallick qui a été le seul deuxième ligne meilleur joueur du monde en 2014. Je pense que s'il y en a un qui peut lever le doigt et dire je postule à ce titre-là, c'est Thibaut Flamand. Je n'ai pas souvenir d'un mauvais match de Thibaut Flamand, en fait. Il a pu être en difficulté sur... à Montpellier, le Stade Toulousain était en difficulté dans la phase aller, mais sinon, je me dis pas un jour, ouais, Thibaut Flamand, moyen. Non, tout le temps. Et il joue souvent 80 minutes en plus, quoi. C'est un cerveau, c'est un athlète, c'est, voilà. Donc oui, on va nous le basculer sur le poste 5 parce que on va le voir chez les gros porteurs, on avait moins de monde. Mais il y a match avec Oradou et Vérague. Hein.
Donc on fait quoi pour le poste de 4, les gars? Oradou, Vérague ou Thibaut Flamand?
Il faut récompenser les joueurs qui sont moins à l'international, peut-être, et plus les mains dans le cambouis en top 14. Mais...
Du coup,
moi je vote Oradou, personnellement. C'est celui qui m'a le
Oradou aussi, quand même. Même si ça se joue à rien, avec Vérague.
Il rajoute le leadership par rapport à Vérague, comme l'ont expliqué Eddy et Julien.
Ouais, l'influence dans
l'équipe. J'imagine, Oradou aussi. Bon, on part sur Oradou.
Même si c'est vrai que ça, Will a raison de le préciser, ça se joue vraiment pas à grand chose quand même. Hein.
Ouais. Ah non, ce poste de 4, il est dur parce que moi, Florian Vérague aussi.
Mais allez, Oradou.
Allez, les auditeurs des poteaux, 48,6% pour Florian Vérague. Le pénible qui a tapé dans l'œil des auditeurs des poteaux devant Hugo Oradou. Mais il est loin, Hugo Oradou. Hein. 23,3%. Thibaut Flamand à 28%. Tiens, je l'avais pas vu. Deuxième Thibaut Flamand. On n'a pas la même perception que nos auditeurs depuis le début de cette équipe.
C'est ça qui est bon.
Ouais, évidemment. Nous, on apporte nos éléments. Et après, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous venez commenter là sous le poste de cette équipe type. Et on mettra le podcast en ligne. Vous venez commenter avec nous et débattre avec nous sur nos choix. Le numéro 5, du coup, de cette équipe des poteaux 2025-2026, Thibaut Flamand, sélectionné. Thomas Seyth, le Clermontois, Taofi Fenoua du Racing 92 et Tyler Duguid. Avec Julien, on était obligé de mettre un Montpellier. Voilà, on était obligé, c'était comme ça. C'est... Sinon, voilà, il y avait des menaces physiques de la part de Julien Landry. Ouais, on aurait pu mettre Chalureau. Le mec, toujours plus, il va mettre le 46ème du groupe aussi. Alors, quel 5 aurait pu postuler en plus? On a un peu galéré quand même sur ce poste de 5.
Ouais, non, y en a un qui était évident. Il y en a un qui était évident, mais qui s'est blessé. C'était David Ribans.
Exact, exact. Je l'avais aussi.
Il fait 6 premiers mois exceptionnels avec Toulon. Qui d'ailleurs Pierre, je pense que quand tu regardes tes équipes,
il était pas mal au début.
Il
est 4 et 5 d'ailleurs à Toulon, il fait les deux.
C'est ça, mais après il s'est un peu blessé au dos, il a un peu disparu en janvier. Mais pour le coup, d'un gros porteur très costaud, Ribans s'imposait comme peut-être une référence.
L'impact sur le jeu de Toulon, l'influence dans le jeu de Toulon. Oui, juste pour préciser, Nico et messieurs. Ouais, mais pas assez longtemps.
Pas assez longtemps, mais ouais, c'est encore un diamant brut.
J'ai l'impression.
Ouais, qui a quand même. Vas-y, Will.
Préciser aux gens que cette idée vient aussi de notre équipe type, parce qu'on l'a pas dit dès le début, mais c'est, on fait une équipe type évidemment tous les lundis, les week-ends, et c'était le résumé de tout ça aussi de l'année.
Ce podcast, c'est le condensé, c'est les élections qu'on a cumulées tout au long de l'année, voilà. On a compté les votes, et ça nous a amené à déterminer une équipe type, et derrière, on a affiné en fonction de plein de choses, notre perception, des résultats collectifs, et c'est pour
donc
ça que.
Donc la data, il y a plein de choses qui sont rentrées chez nous, Nico. Hein. C'est, voilà.
Oui.
C'est total. La NASA, hein.
Non, bah, attends, non, là, c'est comme on le disait, c'est la NASA, les gars. Mais je pense que les auditeurs, ils l'ont compris. Hein.
Alors,
qu'est-ce qu'on fait sur ce poste de numéro 5? Thibaut Flament paraît incontournable. Malgré tout, Thomas Seyth, moi, je me suis noté, quand on parle de joueurs sous-côté, Pierrot, Thomas Seyth, pas loin aussi d'être un joueur ultra sous-côté.
Bien sûr, costaud, était toujours là, toujours présent. Il fait ses 20 titulaires de la saison, exactement, même s'il était commotionné à la fin de l'année. C'est le 5 titulaire à Clermont, devant Ratouva notamment. C'est Kremer qui l'a dépanné, donc c'est bien pour dire qu'il n'y a pas grand monde d'autres à ce poste-là. Il est énorme, mais contrairement même aux autres qu'on va peut-être pas élire comme Taufieno ou Dugui, je trouve qu'il a moins d'impact, on le voit moins quand même sur un terrain balle en main que ces deux autres joueurs-là.
Ouais. Taofi Fenoua, est-ce qu'il réalise pas une des meilleures saisons de sa carrière depuis des années quand même?
Si, c'est pour, en tout cas la plus régulière peut-être. Je trouve qu'il est moins impressionnant parce qu'aussi il a le poids de l'âge qui commence à arriver. Mais je pense qu'on a une image biaisée de lui par rapport à sa tournée de novembre qui était compliquée avec les Bleus, où il avait eu du mal à briller à ce très haut niveau. Mais c'est un des capitaines du Racing 92, celui qui l'a le plus été cette saison. Il est titulaire toutes les semaines à ce poste de numéro 5. Il ne faut pas oublier qu'il joue sur un synthétique à l'Arena qui ne doit pas l'arranger lui et ses 140 kilos. C'est Gaël Ficou qui en parlait en parlant de Tani Latupou, en c'est dur pour lui sur ces synthétiques-là. Je pense que c'est pareil pour Romain Tao. Et donc souvent, il est géré par Colazo qui le fait sortir à la 45e et puis le fait revenir à la 70e. Il ne pourra plus le faire l'année prochaine, ça d'ailleurs. Mais souvent, voilà, il faisait des matchs en deux temps pour rapporter un peu d'impact en fin de match parce qu'il est très important balle en main. Même s'il y a parfois un peu de mal à se déplacer, c'est quand même lui qui est souvent utilisé en premier receveur et pour venir impacter la défense.
Ouais. Et l'international français, Tyler Duguid. Il a que 25 ans, Tyler Duguid. Quand je bossais sur les
non, mais c'est comme Mercler, il fait plus jeune.
Plus vieux. Non, mais lui, pareil, il a connu ses premières sélections cet été en Nouvelle-Zélande avec Fabien Galthié. Je pense qu'il a eu un peu de mal à digérer. Mais là, pareil, pour Johan Codulo, quand il va devoir falloir choisir le 5, je pense que Tyler Duguid, il va s'imposer assez facilement comme le titulaire sur les phases finales. C'est un mec qui s'arrête jamais. Ouais, un mec qui s'arrête jamais sur les repos. Codulo, il dit, il vient, il fait de la muscu, il pousse des barres, il passe sa journée à pousser des barres.
Le bûcheron canadien.
Ah ouais, non, mais il adore ça. Lui, ce qu'il adore, c'est mettre des caramels, c'est pousser. C'est pour ça que c'est des joueurs qu'on a du mal d'ailleurs à voir sur les matchs, hein, parce que alors là c'est vraiment des besogneux, des travailleurs de l'ombre, là il fait du déblayage, du plaquage et des gros plaquages. Mais oui, c'est un joueur très très solide qui a été recruté du côté de Narbonne et que Johan Codulo a fait éclore petit à petit et qui est devenu aujourd'hui un titulaire indiscutable.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce que Thibaut Flament est incontournable sur ce poste de 5?
Thibaut Flament a... pas beaucoup, mais on répète, on explique aux gens que il n'y a pas un pousseur, un porteur qui s'imposait si fort pour ne pas utiliser Thibaut Flament. Parce qu'on avoue qu'au début, dans nos discussions, on était prêt à mettre et Oradou et Vérag en deuxième ligne, mais ça n'avait pas de sens sur la complémentarité des deux.
Ah, bah le coach Julien Landry a mis son veto.
Ah oui, oui. Non, mais c'était vrai, mais on était prêt à le dire. Mais écoutez, c'est les plus cités en deuxième ligne, donc on les met comme ça. Mais pour un souci d'équilibre, on a voté Flament.
Allez, on vote Flament. Thibaut Flament.
Enfin, à moins qu'il y ait des gens qui
changent. Non, non, non.
Non, mais je pense qu'on est pas mal. Les auditeurs des poteaux, Thibaut Flamand, 33,5% devant Thomas Saïd, 24,6%. Ça a été serré chez nos auditeurs pour cette élection du poste de numéro 5. On bascule sur la troisième ligne. Vous inquiétez pas, je vous ferai un cap de l'équipe type à la fin de ce podcast. On va cumuler les postes de flanqueur là, numéro 6 et numéro 7. Et je vais vous donner les élus choisis par la rédac. Willis, le Toulousain, Nouchi, le Montpelliérain, Maxime Bonhomme, le Racing Man, et Cameron Mwoki, le Bordelais. Voilà, on a choisi 4 flanqueurs. Est-ce que vous voyez un 5e, 6e mec là qui était capable de passer
Jégou.
Oscar Jégou, évidemment.
Ouais, Oscar Jégou.
Je pensais pas 16 matchs de top 14 quand même.
Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai pas l'impression qu'on l'a
Capilla
vu beaucoup.
Dans la Capilla saison de Bayonne
Il est énormément cité en début de saison. C'était
les
4 premiers mois sont énormes.
Et il a plongé quand Bayonne a plongé. Mais
il a été blessé aussi.
Il fait vraiment un très très gros début de saison.
Mais Capilla, j'allais dire, c'est comme Flamand. Pardon.
Non, j'allais dire Capilla, on reviendra dessus, mais ça nous pose le débat de est-ce que tu peux être élu dans une équipe type alors que collectivement c'est un naufrage ta saison.
Mais certains vont y arriver.
Si Capilla avait joué quasi l'intégralité de la saison au vu de ses performances sur les 4 premiers mois, quand même, d'ailleurs, ce qui lui a valu d'être appelé à Marcoussi, je pense que Capilla aurait certainement postulé pour l'équipe type.
C'est
vrai que
il a raté de la 14e à la 18e journée, donc au moment où Bayern va moins bien d'ailleurs.
Un autre joueur à noter, c'est au Stade Français, on n'en parle jamais de ce mec là mais Tanguinoa, l'iPhoneoa, tous les mecs du Stade Français te disent c'est le plus fort de l'équipe, qu'il est avec nous, c'est un boucher, il veut que tout ce qui l'intéresse c'est de plaquer, de mettre des tubes, il parle jamais, il parle à personne, mais je te demandais à Johan Tanga, est-ce que t'as déjà entendu le son de ta voix, de sa voix, il me dit pas beaucoup, mais non, mais c'est vraiment un tueur à gage à l'iPhone.
Garage à bœuf, garage à poulet, ouais, c'est sympa,
garage à poulet,
garage à poulet, garage à bœuf,
allez, repas le midi, on se régaler.
Bon, je j'insiste sur Jégou, parce que normalement c'est que la saison de top 14, mais vous enrobez ça avec sa saison en équipe de France,
on en rend pas fort, mais
je suis désolé, à 16 matchs de top 14, Jégou avait autant sa place que Bodon.
Ça y est, on va pouvoir en parler de Bodon.
Dites-moi,
il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat sur Maxime Bodon,
mais il n'est pas là, vous avez choisi.
Il a fait un peu parler. Pourquoi on a choisi de le mettre dans cette liste-là? Parce qu'on n'en parle pas de ce joueur-là. Par contre, il a des stats de haut niveau sur cette saison 25-26.
Oui, même si certains vont dire que c'est facile de plaquer beaucoup quand tu joues beaucoup. Mais c'est le deuxième meilleur plaqueur du top 14 derrière Jamie Ritchie. 275 plaquages sur l'année. Et c'est le seul, avec Axel Despérès, le Palois, à avoir joué tous les matchs de la saison du Racing 92. Ça compte, et je trouve qu'il apporte... C'est peut-être le seul qui apporte une dimension un peu différente à ce paquet d'avant du Racing 92. Où on le dit souvent, ils sont lourds, ils sont costauds, ils placent pas très bien mais ils font mal. Lui, il court partout, c'est le lien entre les trois quarts et les avants, c'est lui qui sauve pas mal de coups en défense aussi. En touche, il est très bon, et Patrice Collazo ne lui aurait pas fait jouer les 26 matchs s'il faisait pas évidemment partie des meilleures troisième lignes de ce championnat.
Heureusement qu'il est gif.
Non. Gogi Chachvili, il est aussi, hein, tu sais, et Tagi Valou aussi.
Jack Willis est-il le joueur le plus dominant du top 14 encore, Will? C'est vrai que moi je l'ai. On a moins parlé de lui cette saison, tout simplement.
Bah, c'est le meilleur joueur de l'année dernière.
Un peu en retrait. Oui, mais c'est pour ça que je pose cette question. Aussi, mais est-ce qu'il était un peu plus en retrait cette année?
Non.
Est-ce que. Non?
Je pense pas. C'est toujours un tank, c'est toujours dans le jeu au sol.
Un poison.
Moi, c'est le Dussautoir des années 2020, parce que il y a eu Dussautoir arrivé sur un ruck dans les premiers, je me disais ça fait pénalité pour Toulouse. Et là, c'est pareil avec Willis. Vous le savez très bien que quand il met ses bras, c'est un peu inéluctable. Puis il est bon balle en main, il est leader, il est capitaine sur le printemps. C'est lui qui est le plus souvent capitaine, c'est-à-dire sa place au Stade Toulousain. Et ben moi, je le veux dans mon équipe.
C'est clair. Et puis quand les internationaux sont pas là, c'est lui qui tient la maison à Toulouse.
Ouais. C'est vrai. Cameron Mwoki, parlons-en, parce que du coup les Bordelais ont terminé 8e. Par contre, s'il y a un joueur qui a été performant cette saison côté pas QBB, c'est bien Mwoki. Est-ce qu'il ne faut pas récompenser la renaissance de Cameron Mwoki, qui est peut-être le joueur qui revient de plus loin? On parlait de Boris Palu aussi.
Les Racing Men, franchement. qui retrouve un niveau qu'ils n'avaient plus du tout quand ils étaient à Paris, quoi.
Je, franchement, quand il est revenu, Cameron Wauquiez, tu te dis, ouais, ok, ça peut être le bon coup, mais attention, parce que je pensais pas qu'il était capable d'atteindre aussi vite ce niveau et de retrouver ce niveau-là, Cameron Wauquiez. Non, les gars.
Non, mais c'est un, enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur assez incroyable. Rappelez-vous, en équipe de France, c'était lui, même si Fabien Galthié voulait plutôt le mettre en deuxième ligne. Ouais. Il a une dimension physique et dingue. Et l'année dernière, en fin de saison, au Racing, il recommençait à jouer plutôt 8 ou 3ème ligne. Il allait dans le couloir, comme il le fait à Bordeaux maintenant, ouais, parce qu'il va très vite en plus de ça. Il va très vite, il a des bonnes mains, il sent bien les coups. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage de l'enfermer en numéro 4, où il avait beaucoup plus de mal à être vu sur le terrain. Et là, en effet, il a repris une dimension. On sent bien, qu'il est heureux, quoi. On sent qu'il est vraiment heureux à Bordeaux. Et que,
8 essais. C'est un troisième ligne qui score énormément. Indispensable en touche et dans les airs. Il a stabilisé totalement ce secteur de jeu côté Bordeaux. Il fait une saison monstrueuse. 7 matchs de Champions Cup, là, il s'est un peu blessé au genou. Et d'ailleurs, il a manqué contre Clermont lors du dernier match. Mmh. Mais il a quasiment tout joué. Wauquiez aussi, ça compte, on le disait. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis, sur ces postes de flanqueur? Deux joueurs à élire. Willis. Oh non, on n'a pas parlé de Leninouchi. Julien
Cavé. Oh là là.
Non, mais qu'est-ce
que j'ai dit?
Ouais, j'ai pas dit, je vous signale. Non, je vais me faire molester, je le sais, en sortie de podcast. Qui a commencé très très fort, et par contre, qui a peut-être, ouais, été handicapé par son tournoi destination. Non, Nouchi, on l'a moins vu après.
Ah, il a eu du mal à digérer ce faux aller-retour à Montpellier, ou préféré à Mathieu pour le dernier match du tournoi des destinations après ce match un peu raté en Écosse. Il prend l'avion de Marcoussis pour arriver à Montpellier. Il arrive sur le tarmac et il a un appel en disant « Ouais, Lenny, il faut que tu reviennes à Marcoussis pour être 26e ». Ah, génial. D'ailleurs, à Montpellier, on a plutôt mal vécu la gestion de Leninouchi, mais qui fait quand même, malgré tout, c'est le capitaine, même si lui, il répète souvent que c'est Camara et... D'ailleurs, Yacouba Camara, on aurait pu aussi le mettre dans les troisièmes lignes de cette saison.
Oui, mais attends, Montpellier non plus, Julien. Effectif, lui.
C'est vrai, ligne, il a un mec. Non, mais oui, mais j'y pourrais devant sur les 8, les 8 devant, ils sont tous énormes. Mais
il va se calmer derrière. Il va se calmer derrière.
Yacouba Camara fait aussi une saison énorme. Non, mais Leninouchi, c'est le capitaine. Et il a des statistiques impressionnantes. 1247 mètres parcourus, 6 essais, 30 plaquages cassés, 10 franchissements. Il a cette capacité, on parlait de Cameron Wauquiez, aussi à être sur les extérieurs, à jouer tous les coups. D'ailleurs, le projet offensif du MHR tourne beaucoup autour de Leninouchi, comme il avait tourné autour de Zach Mercer il y a 2 ans. Il est de toutes les animations offensives quasiment de Montpellier, et il réalise sa meilleure saison en top 14, lui qui est très jeune. Voilà, c'est une saison pleine pour Leninouchi cette année.
Pas facile, ces postes de flanqueur, du coup. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Willis, Nouchi, Bodon, Wauquiez. On en a deux à choisir. On choisit qui?
Wauquiez. Willis, Wauquiez. Pardon.
Attends, alors, Will, pardon. Willis, Wauquiez.
Il fait ça bien.
Okay. Ouais, Willis, Wauquiez.
Willis, Wauquiez. D'accord.
Willis, Nouchi.
Willis, Nouchi. Pierrot.
Et moi, j'avais dit Wauquiez, Bodon, mais j'ai été renvoyé dans les cordes.
Donc, Cameron Wauquiez est élu.
Ah, mais Wauquiez pour la progression, oui, par rapport au dernier mois. Nouchi aurait sa place aussi, oui, bien sûr.
Et on a deux
Jack
Willis,
il y a trop de
Pompelier.
Voilà.
Non, mais on va faire un petit banc de touche à la fin, les mecs, oui, vous allez voir.
Ouais. Okay.
On va se faire un petit banc de touche un peu sympa. Les auditeurs des poteaux ont choisi, Leninouchi et... Ouais, exactement, je fais 5 là. Ouais. Leninouchi et Jack Willis. Pas de Cameron Wauquiez pour eux. Nouchi, Willis, bah, ça se tient aussi. Okay. Hein, franchement. Ça se tient fort. On bascule sur le poste de numéro 8. On en quitte parce qu'on est long. Surtout notre débat, je suis en train de voir le chrono qui tourne.
Oui, mais vous...
Winipola, le Montpellier, Simon, Lyon, Tanga, Stade Français. Voilà les 3 joueurs qui ont été castés par la rédaction. Un petit numéro 8 vite fait là qui traîne, qu'aurait pu.
Pekka Gorgadze.
Ouais, Gorgadze. Ouais.
Ah bah ouais.
Ouais.
Donc, le leader, ouais, du paquet d'avant de peau. Alors là, ouais.
Mais blessé, non? Un peu aussi cette année. Pas tant que ça.
Non, pas tant que ça. Qui a été blessé. Il y a 2 mois contre le Stade Français, justement à Jean-Bois. Derrière, donc précaution évidemment pour Sébastien Piccheroni en vue des phases finales. Mais c'est vrai que d'ailleurs il le dit, hein, Piccheroni, il y a une section paloise avec et sans Bekka Gorgadze. Vraiment leader de jeu qui est toujours dans l'avancée. Alors là, sans conteste, on aurait pu le citer évidemment dans l'équipe type, ou encore au moins dans les 23.
Et un autre qui avait été très impressionnant en début de saison, mais qui a baissé de pied, c'est Nathan Hughes, qui avait fait une arrivée au Racing où on parlait beaucoup de lui. Il peine beaucoup plus sur cette fin de saison aussi, puisqu'il avait joué longtemps au Japon et qu'il avance dans l'âge lui aussi. Ouais. Mais il avait été impressionnant en début d'année.
J'ai mis Aldrit parce que, enfin, j'ai dit Aldrit. Vous allez me dire ouais, première moitié de saison, ouais, peut-être. Mais alors là, depuis depuis le tournoi, attention, hein, 23 matchs, hein, 21 titularisations. Oui. Mais oui, c'est pas assez. Il en manque un petit peu.
Mais oui, il manque 5 mois quoi. Il manque 5 mois pour Greg Aldrit. Y a un joueur qui se détache peut-être, même si on a inclus Gorgadze à ce débat-là quand même. C'est Vunipola. Jus qui fait une saison monstrueuse. On en parlera peut-être dans notre débat du MVP, mais il postule peut-être pour le trophée de meilleur joueur de la saison, Billy Vunipola.
Ah, c'est un monstre. Non, mais à Montpellier, ils en ont tous plein la bouche. C'est le joueur le plus impressionnant physiquement, disait Benjamin Del Moral. Tout le monde pensait que quand il arrive à Montpellier, là, il y a 2 ans, il venait en vacances à Montpellier. C'est pas du tout le cas. C'est un exemple pour tous les joueurs. Dès le premier entraînement, il avait mis tout le monde au pli. Tout le monde s'était dit. Ouais, il n'est pas là pour rigoler et autant la semaine dernière. Ouais, autant l'année dernière, je l'avais trouvé moins dominant, moins impressionnant. Mais cette saison, à chaque match, c'est impressionnant la capacité qu'il a avancée. J'ai fait les statistiques, j'ai envoyé 1600 mètres parcourus. C'est le deuxième meilleur avant de tout le championnat. Il est dans les 10 meilleurs joueurs qui avancent le plus balle en main. Alors c'est un numéro 8 qui a beaucoup joué, c'est sûr. Et en plus, il fait mal en défense, il plaque. Alors parfois, pas toujours très bien. Il a quand même pris 4 cartons jaunes cette saison. Il est parfois à la limite, mais c'est un joueur indiscutable aujourd'hui dans l'effectif. Je pense que c'est peut-être même le premier nom que met Joan Codulo sur ses feuilles. On ne le sait pas, mais il parle très bien français. Donc il est évidemment écouté dans le vestiaire dès qu'il ouvre la parole. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est Bastien Chalureau qui m'avait raconté cette anecdote-là. Lors des premiers entraînements, ils n'étaient pas très concentrés. Et Vunipola, il est arrivé au milieu du cercle et il avait lâché un grand « ta gueule » en français. Et tous les joueurs s'étaient dit « oula, ok, on va se taire et on va travailler ». Et en fait, c'est le leader qui mène le paquet d'avant aujourd'hui et il fait une saison remarquable.
Ah ouais, je le vois la scène, il doit faire très peur.
Oui. Ah oui, il fait très peur. Mais c'est un tout gentil, quand tu le vois après match, il est dans son coin. Bon, il a été moins gentil en Espagne l'année dernière, n'oublions pas non plus, où il avait eu quelques déboires avec la police espagnole. Mais tu le vois après match, là c'est un tout gentil, il est toujours dans son coin. C'est un peu le papa de tous les étrangers du groupe, mais voilà, c'est un super joueur, on comprend pourquoi il a été autant de fois appelé par l'équipe d'Angleterre, qu'il a un palmarès aussi grand avec les Saracens. C'est vraiment un joueur remarquable.
Ouais. On voulait mettre en avant aussi le cas de Sam Simons, le Lyonnais, qui a énormément joué, titulaire à tous les matchs. Je crois qu'il joue 22 matchs, Simons. Et il y a cette question, Pierrot, quand même, qui revient à chaque fois, c'est est-ce qu'on peut être un prétendant et être élu dans le 15 type de la saison quand ton club est aussi décevant collectivement?
Franchement, il y a vraiment débat, je trouve. Enfin, pour lui particulièrement, parce que c'est le même. On le rappelle, hein, il joue à Lyon, qui a eu beaucoup de mal, mais il a surnagé. Et Wilfried en parlait avant le podcast. On n'a peut-être pas mesuré à quel point il était fort, en fait. Ça me semble bien, parce qu'on a moins regardé Lyon, qu'ils ont moins sauté aux yeux parce que ça ne gagnait pas. Julien disait que Vunipola était le deuxième avant qui parcourait le plus de mètres. Bah, c'est Sam Simons, le premier, qui a parcouru 1800 mètres balle en main, qui a joué, tu l'as dit, 22 matchs. Et qui a porté le loup, qui marque beaucoup d'essais aussi. L'avantage va peut-être être donné à Vunipola pour la saison collective, mais c'est vrai qu'en termes de saison individuelle, Sam Simons a été vraiment très très grand à Lyon.
Je suis partagé sur ce débat-là, Will. Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu peux être monstrueux individuellement, mais bon, après, les performances d'un joueur vont peut-être pas booster toute une équipe, mais malgré tout, tu n'arrives pas à sublimer ton collectif.
C'est dur pour Sam Simons. Mais je pense que, on s'oriente vers un Vunipola parce que on parle encore une fois de l'influence sur l'équipe et ce que ça fait, ce qu'il en résulte. Et Montpellier est deuxième. Donc voilà, mais comme dit Pierre, il est moins exposé, Sam Simons. Et pourtant, c'est de la bombe en
montre. Ouais, c'est clair.
Mettez-le ailleurs dans un club du top 6.
Oui, ça c'est clair. Johan Tanga et Beka Gorgadze, peut-être en retrait, même si Pierrot Tanga fait une saison où il est en train de retrouver quand même le niveau qui lui a permis de
connaître l'équipe de France.
De toucher au niveau international.
Ouais, ça a été très compliqué son arrivée au Stade français. Il a eu des problèmes perso et puis il est arrivé dans une saison qui était qui était très compliqué l'année dernière où ça se passait mal pour le Stade français. Il a repris la mesure de son rôle et de son poste au Stade français. Pareil, c'est quelqu'un de très discret. Il ne parle pas beaucoup, Yohan Tanga, mais je trouve qu'il apporte une autre dimension à ce qu'on voit beaucoup chez les numéros 8 qui sont souvent dans le frontal, dans l'affrontement. Lui, souvent, si vous le regardez bien sur le terrain, il cherche les intervalles, il a des petits pas, des petits appuis pour essayer de s'ouvrir des portes à lui et à ses coéquipiers. Il met aussi très souvent ses coéquipiers dans l'intervalle. Il a des bonnes mains et il est très important au Stade français, moins dans le défi mais plus dans le collectif. Et il finit surtout très très fort la saison, Yohan Tanga.
Ouais. Juste une petite pensée comme ça, juste une petite pensée à Simon, je disais, dans une équipe du top 6, je l'aurais bien vu dans une équipe au Racing avec les gros porteurs, justement, ouais, la clair. Lourdeur du pack. Vous mettez un tel éclair comme ça en 8, je pense que ce serait très efficace.
Ah, moi,
je peux donner des idées à Patrice.
Il n'est pas gif.
Arrêtez
avec ça, on va avoir des problèmes.
À la place d'un Jean-Luc Duprez à l'UBB qui n'a pas pu jouer, tu vois, je pense qu'il aurait fait quand même un bien fou aussi à l'UBB. En encadrant des joueurs un petit peu jeunes et tout ça, talentueux. On y va sur Vunipola, on est tous d'accord,
ouais.
Non
Vunipola.
Eddy, Vunipola. Les auditeurs des potos ont choisi aussi Billy Vunipola à 57,4%. C'est un plébiscite une nouvelle fois. Simons deuxième, mais à seulement 31%. On bascule sur les trois quarts, les amis. Une heure et demie de podcast
moins,
et on bascule.
Bon.
Ah oui, mais ça y est, plus de Julien Landry.
On va accélérer comme les trois quarts.
Allez, le poste de demi de mêlée, Nolan Le Garec a été sélectionné, Maxime Lucu, Baptiste Genoux. Il y a énormément
y a du monde
sur ce poste de numéro 9.
De niveau.
On va commencer encore une fois par les petits neufs qu'aurait pu postuler dans cette équipe type là, les gars. Qui on aurait pu mettre dans ce match-là?
Pour moi, ces trois-là, ils sortent vraiment du lot. Hein. Il y a d'autres qui font des bonnes saisons, mais ces trois-là, ils sont, pour moi, ils planent au-dessus. Ouais. Paul Graou, peut-être, à Toulouse.
Ouais, exactement. J'allais dire. Penchons-nous sur le cas de Nolan Le Garec. Nolan Le Garec, Will, qui fait une fin de saison extraordinaire. Sans Le Garec, on se dit que La Rochelle n'aurait pas pu faire cette remontada, clairement, quand tu vois les matchs.
Je suis d'accord. Et sur les 6 derniers matchs, 8 essais, 119 points, 20 points de moyenne. 20 points de moyenne, vous imaginez? Par match, 20 points sur les 6 derniers matchs. Distribution, sortie de camp, c'est la panoplie hein, de Le Garec. Là, hein, alors, il commence même à agacer parce que quand il marque, il va chambrer et tout. Mais c'est un phénomène là, sur les derniers matchs. C'est l'image du jeu Rochelet qui est en train
exactement,
de se métamorphoser.
Évolue, ouais.
Donc, Le Garec, là, il est vraiment, vraiment tout en haut.
Ouais.
13 essais en fin de saison et deuxième du classement.
En tout. Je parlais juste sur les derniers matchs, c'était 8. Ouais, 13 essais en tout. Ouais.
On a énormément parlé de Maxime Lucu cette saison parce que indispensable au trophée en Champions Cup. Il fait une belle saison en top 14, Pierrot, Maxime Lucu. Même s'il rate le début de saison, il a été blessé, donc il joue pas énormément de matchs. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui coûte la qualif à l'UBB. Les blessures de Lucu là, en début de saison, il a vraiment énormément manqué à cet effectif. On était obligé de le mettre dans cette sélection là des demi de mêlée parce qu'il est indispensable au jeu bordelais en fait.
Ces trois-là, hein, Le Garec, Jauneau et Lucu, ils ressortent aussi parce qu'ils sont indispensables à leur équipe. Et quand ils sont pas là, c'est criant parce qu'il y a pas d'autres joueurs du même niveau qu'eux. Et Maxime Lucu, oui, a beaucoup manqué
comme
quand il n'était pas là, comme Serein à Toulon à un moment, même s'il a une doublure qui est quand même performante,
Ben White.
Plus que je trouve le sont les doublures à La Rochelle, à Clermont et à Bordeaux. Mais Lucu, je trouve que son dernier match face à Clermont, c'est le symbole, c'est que Bordeaux sombre et n'est plus là, mais lui, il met son doublé, il harangue tout le monde, c'est l'âme de cette équipe de l'UBB. Et puis en termes de niveau, c'est quelque chose aussi. Et pour moi, c'était normal de le citer parmi les trois demi-mêlés, même si pour moi, c'est le troisième en termes de niveau pur sur la saison de top 14 entre ces trois-là.
Ouais, mais ce qui est certain, messieurs, c'est que si Le Garec arrive peut-être un petit peu devant, parce que t'as raison de dire, Pierre, que Lucu, Le Garec, Jonas, Sazo, mais Le Garec participe à cette belle qualification pour le top 6 de La Rochelle, alors qu'il reste sur le carreau, et Clermont et l'UBB, mais c'est vrai que l'influence de ces trois joueurs est complètement folle. Mais bon, au final, on retrouvera La Rochelle ce week-end et l'UBB et Clermont restent à quai. Mais quelle saison pour ces trois joueurs! Et c'est vrai que Baptiste Jauneau, on l'attendait peut-être pas encore à ce niveau-là, mais c'est
révélation.
Peut-être la future.
Regarde, Eddy, je me suis noté un peu les neuf et je me suis concentré que sur les neuf français. Mais Dupont, Graou, Lucu, Le Garec, Serein, Jauneau, Et on se dit que
tout va bien.
En citant tous ces noms-là, ouais, tout va bien sur ce poste-là. Mais Jauneau est peut-être déjà entré sur la saison, on répète, dans le top 3 des 9 Français. Alors qu'il y a cette concurrence-là à son poste. C'est monstrueux.
Qui ont choisi les gars capitaine à Clermont, juste rapidement sur Jauneau. Il est capitaine depuis 2 ans et il avait mal vécu sa tournée où il avait été un peu chahuté en Nouvelle-Zélande.
Par
Fabien. Ça doit pas être simple de l'avoir sur le dos pendant 2 mois, surtout quand t'es demi-mêlée. Mais il s'est très bien remis avec Clermont et c'est le patron de cette équipe clermontoise avec un certain 10 dont on va parler juste après, il me semble.
Ouais. Qui en choisit là parmi ces 3 demi-mêlées, le Garec, Lucu, Jauneau? On a les 5 dernières
le
minutes d'une finale à jouer.
Le Garec.
Attends.
Eh, je vous trouve catégorique, vous.
Attends, les 5 dernières minutes d'une finale à jouer, t'as dit?
On va parler du cul pour l'expérience. sur les
tout
5
ça pour qu'on dise du cul.
Je suis désolé, mais le Garec, on en a parlé, mais le Garec, il a pris le but à La Rochelle aussi. Hein, et sur les 20 points qu'il marque, il n'y a pas de
Mais si j'ai une finale à gagner qui reste 5 minutes, je préfère que ce soit Maxime Lucu quand même. Mais sur la saison,
enfin bon, le pourcentage de réussite de Le Garec au tir au but.
La pénalité entre en prolongation, pour mettre en prolongation.
Je vois pas pourquoi cette question.
Juste pour qu'on parle de Lucu.
Et la relance des 22 mètres dans ton
ambus,
qui c'est qui l'a fait? C'est le Garec ou Lucu?
C'est le Garec. Mais de toute façon, sur la saison, moi je mets le Garec.
Moi aussi.
Le Garec. Le
et
Garec,
Julien a dit le Garec, dit... donc
moi j'aurais bien mis Lucu.
Allez, mais malgré tout, c'est le Garec qui a élu 3 votes contre 1. Moi aussi, mon Max Lucu quand même. Hein. Bon.
Et les auditeurs?
Les auditeurs, je suis en train de basculer dessus. F5. Maxime Lucu et lui. Ouais, F5 totalement. Élu 48,2% devant Nolan Le Garec, 27,7%. Qui a soufflé là?
C'est pas moi. Mais vous faites des analyses du souffle, vous savez qui c'est. Ouais. N'importe quoi.
Il est en train de nous détacher de notre communauté. On respecte. Alors, c'est fou. Maxime Lucu, du coup, élu. Je me le note. Clac, clac, clac. On se comparera les deux équipes à la fin. Allez, le numéro 10. Harry Plummer, meilleur réalisateur du top 14. Est nommé Mathieu Jalibert et Louis Carbonel. Les 3 noms qui se dégagent pour ce débat du numéro 10. Je pense qu'il n'y en a pas forcément d'autres qui auraient pu postuler, peut-être en tout cas. Là aussi, on est sur 3 évidences,
ça,
non?
Ça se dégage. Alors, on est sur 2 évidences plus Louis Carbonel, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Il est un peu en dessous Carbonel sur la saison, même s'il est bien meilleur que l'année dernière.
Non, alors, c'est peut-être le côté cœur qui parle, mais c'est vrai que, même s'il n'est encore pas évidemment à ce niveau-là, mais on en a parlé dans le podcast, Axel Despérez, quand même, lorsque Joe Simon se blesse début novembre, il en prend pour 6 mois, il a vraiment fait le taf, et même plus que ça, c'est devenu un leader de jeu. Alors, encore évidemment trop tendre.
Mais peut-être plus, la meilleure révélation du top 14, quoi, tu vois.
Mais c'est vrai que jusqu'au retour de Joe Simons, c'était à la mi-avril, hein, sur la pelouse de La Rochelle, quand même, Despérez a vraiment fait le taf, excellent buteur, donc sans le citer, on peut quand même avoir une pensée pour le jeune Bernet.
Bien sûr.
De la Vallée d'Aspe. Et Miotti aussi a fait sa saison à Montpellier. Non, alors il ne mérite pas, mais Miotti, qu'on pensait mort pour le rugby avec son problème au genou, participe aussi à la bonne saison de Montpellier dans sa capacité qu'il a à gérer. Et c'est d'ailleurs le 3e meilleur réalisateur du championnat avec 240 points marqués, mais il ne mérite pas d'être parmi les 3.
Et il défend. Et ça défend fort.
Et il défend surtout très bien.
Harry Plummer, le Clermontois, meilleur réalisateur, on le disait, du top 14. Pierrot, moi j'ai dit, est-ce que c'est pas le joueur qui a le plus dépassé les attentes parmi les joueurs recrutés cette année?
Il y avait beaucoup d'attentes chez les supporters clermontois parce qu'ils sortent d'une période compliquée en termes de demi d'ouverture où il y avait Anthony Bello, il y avait Jules Plisson. Enfin, depuis que Camille Lopez était parti, ils avaient du mal à trouver un ouvreur. Lui débarque des Blues d'Auckland et on sait que c'est pas toujours évident de s'adapter entre le Super Rugby et le top 14 qui sont pas du tout les mêmes championnats, sauf que Harry Plummer, c'est un 10 fait pour le top 14, clairement. C'est lui, pour le coup, en termes de défense, c'est monstrueux aussi. Il va au contact très, très fréquemment et puis c'est le meilleur réalisateur du championnat.
Il fait 25 matchs,
295 points marqués par Harry Plummer. Il est le 2e plus utilisé du championnat derrière Tom Banks. Il fait quasiment 2000 minutes cette saison, et puis là aussi, son dernier match contre Bordeaux, quoi. 19 points, un drop, un essai, 100% au pied. Enfin, il a pris vraiment la mesure de cette équipe de Clermont. Et ce qui est très positif pour les supporters clermontois l'année prochaine, c'est qu'il y a AJ Lam, qui était son 12 au Blues d'Auckland, qui débarque aussi. Et donc, sans doute qu'il y aura un axe 9-10-12 qui va être très performant à Clermont.
Moi, je vous fais le pari et je prends pas trop de risques. Il sera dans les dans la liste des pour les meilleurs joueurs du top 14 de la Ligue
Ouais, la prochaine avec Nipola. Oui, 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 oui. Je pense que. Mais de toute manière, on va se le faire notre élection du MVP.
Dans les joueurs qui ont changé le visage de leur équipe, bah, il est là.
Clairement. Il y a peut-être Mathieu Jalibert qui vient un petit peu le concurrencer une nouvelle fois cette saison. Même si Mathieu Jalibert a joué moins de matchs en top 14, 15 matchs. Réquisitionné par le 15 de France, ménagé aussi pour la Champions Cup. Il y a eu de la gestion. Malgré tout, les gars, il y a quand même une Jalibert dépendance à l'UBB. On a la sensation qu'il a toujours autant d'impact sur son équipe cette saison. Et on a la sensation que s'il avait été là sur le dernier match contre Clermont aussi, ça n'aurait pas été la même limonade, les amis, non?
Non, mais ouais, il a franchi un palier, Mathieu Jalibert.
Vous voulez que j'y aille sur Jalibert?
C'est pas, c'est toi qui le connais mieux. Mais c'est plus le même joueur qui était fantasque, où on voyait que le côté fantasque. Ouais. Aujourd'hui, il a ce côté très gestionnaire. Non, mais il a ce côté très gestionnaire où il a un très bon jeu au pied. Je trouve qu'il utilise parfaitement son jeu au pied aujourd'hui. Je trouve toujours qu'il a quelques limites défensives, mais il a beaucoup progressé aussi là-dedans. Mais je pense que tu l'as dit, Bordeaux sans Jalibert, c'est plus la même équipe, quoi. Et son absence contre Clermont, elle est évidemment préjudiciable. Et tu parlais de Lucu qui joue que 15 matchs, Jalibert qui joue que 15 matchs aussi avec Bordeaux participe aussi au fait que Bordeaux soit pas dans les phases finales. Lucu et Jalibert, ils auraient fait 20 matchs, l'UBB serait probablement qualifié aujourd'hui.
6 ouais. essais pour Mathieu ouais. Jalibert cette saison. Et puis enfin, il y a Louis Carbonel. Pierrot, tu disais, il part peut-être d'un petit peu plus loin par rapport aux deux autres, à Plummer et Jalibert. Est-ce qu'on aurait cru à une telle résurrection malgré tout de Carbonel avant le début de saison? Parce qu'il revient tellement loin en fait, Louis Carbonel.
Vous pouvez écouter l'entretien des poteaux avec Louis Carbonel qui est sorti cette semaine. Non, mais l'année dernière, il le raconte très bien, à une semaine de la reprise, il ne sait pas s'il joue au Stade Français ou pas. Il doit retourner à Toulon, finalement ça se fait pas, Enzo Hervé ne vient pas à la place, il reste au Stade Français et il aurait pu se braquer en disant vous voulez pas de moi, je joue plus, pas du tout, il est venu dans un état d'esprit beaucoup plus positif en disant je vais bosser, et il le dit en début de saison, moi je suis concentré sur moi, il fait ce qu'il peut individuellement pour revenir à son niveau et pour progresser, et il dit et l'équipe finalement a fini par suivre, et comme à La Rochelle, Wilfried en parlait, il y a eu aussi un switch dans le style de jeu du Stade Français où ça joue beaucoup plus derrière, et Carbonel raconte aussi que l'arrivée de Carbarlo a fait du bien pour dire à certains avants, écoutez maintenant c'est nous les patrons, c'est derrière que ça se passe et c'est beaucoup plus fluide dans les relations entre les avants, les trois quarts et chacun joue pour l'équipe, et Carbonel s'est imposé aussi dans ce rôle-là, excellent buteur également, il bosse énormément sur cet aspect du tir au but, et pourquoi pas lui pour le coup le revoir en équipe de France cet été en tournée, ça serait une belle récompense pour lui qui n'y a pas été depuis 2021. Et Carbonel, ça a été longtemps un grand espoir du rugby français. Il dispute ses premières phases finales avec le Stade français ce week-end.
Ça, c'est ouf. Qui on sélectionne là? Qui est élu meilleur 10 du top 14?
Harry Potter Plummer.
Harry Plummer?
Harry Plummer.
Allez. Plummer, les auditeurs ont choisi. Harry.
F5.
Très serré, très serré. 46,2% contre 45% de Mathieu Jalibert. Évidemment. Il y avait match chez nos auditeurs. Les ailiers du top 14. On va combiner les postes de 11 et de 14. Je vous donne la sélection. Vainicolo, Max Spring, Louis Bielbiaré, David Niniashvili. Les quatre joueurs choisis par la rédac pour occuper deux postes.
Il y en a un qui est déjà pris. Vainicolo, je pense que c'est une évidence. Ouais. Sur la saison, ouais. En termes d'ailier, meilleur marqueur de notre championnat.
En 20 matchs, 18 essais.
18 essais, ouais.
En 20 matchs.
Oui, non, mais, et puis, c'est pas des essais.
Il s'y fait tout seul, la plupart. Ouais.
C'est pas des essais comme. Alors, sans critiquer Damien Penaud, mais parfois, il y a eu des essais que Damien Penaud marquait en bout de ligne sur des belles animations.
Oh, le tir gratuit.
Sur des belles animations. Et bordelaises et françaises. Vainicolo, il y a des essais, notamment le dernier contre Toulouse.
À Toulouse, ouais, Wilfried.
Oui.
Ah ouf.
Non, mais c'est pour ça aussi que c'est en plus d'être un marqueur d'essais, il fait des essais. Ouais, c'est ça. Oui.
Ah non.
Oui, c'est ça aussi qui compte, quoi. C'est que c'est un joueur frisson, quoi, pour le coup, là, vraiment.
Ouais, bah alors justement, joueur frisson, mais c'est parce que là, t'as quand même trois joueurs frissons dans la liste. Hein. Je mets Max Spring un peu en retrait, il nous en voudra pas. Mais Vainicolo, Bielbiaré, Niniashvili, c'est qui le joueur le plus excitant là?
Bah,
là c'est pas
moi,
mal hein,
pour moi
je préfère Niniashvili dans le style mais Mais juste pour finir sur Nicolo, avant de basculer sur, avant de basculer sur Nijashvili, il est meilleur marqueur, mais il est aussi sur le podium en termes de plaquage cassé, de franchissement, de mètres parcourus. Donc c'est pour aller dans le sens de Julien en disant il marque pas des essais tout faits du tout. Dans une équipe qui va pas bien, il se les est pour la plupart construit un peu tout seul, ces essais-là. Donc c'est pour ça que cette saison est brillante. Mais comme Outry va le développer, je trouve que Nijashvili est un joueur de rugby plus complet.
Mais il se passe toujours quelque chose avec Nijashvili en fait. Justement ces stats là, il est derrière Wayne Nicolo sur les franchissements, il est deuxième, donc offload il est juste derrière Penaud, ça veut dire qu'il fait jouer derrière lui, plaquage cassé il est premier, mètre parcouru il est premier,
4 par match, regardez, les plaquages cassés 4 par match sur
vous regardez un match de Nijashvili, et moi je l'ai vraiment découvert, c'était 2022, la finale de Challenge Cup avec Lyon, qui gagne avec Lyon contre Toulon, et je me suis dit c'est quoi ce mec. Sur le ballon haut, sur il y a pas de place, et d'un coup il prend un trou alors que vous vous dites où il est passé, comment il a fait, l'accélération qu'il met. Donc ce sera, je sais pas combien de temps il va durer comme ça, mais très souvent quand je l'ai vu jouer, je me dis paf, il y a une étincelle avec lui quoi. Donc voilà, pour moi joueur frisson, quand vous dites joueur frisson, ça représente bien ça.
Après, Louis Bielbiaré, les amis, je suis en train de me pencher sur ses stats. 15 matchs, 13 essais en top 14.
Oui,
mais dans les standards de Louis Bielbiaré, je trouve qu'il ne fait pas une saison exceptionnelle contrairement aux deux autres. C'est dur, non, mais c'est pas juste.
Il est moyennement stratosphérique.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais oui, évidemment,
il est à demi-humain. D'habitude, il n'est pas humain, là, il est à demi-humain, donc ça nous déçoit. Ça.
Non, mais on a eu le débat, hein. Ça dure un moment, bien sûr. Là-dessus. Hein.
Il y a un vrai débat sur Louis Bielbiaré. On va voir pour qui vous votez. Pourquoi Max Spring il mériterait d'y être là dans ces quatre là, Pierrot,
parce qu'il faut des Racing Man quand même. non mais le Racing finit quand même cinquième et Max Spring est un des capitaines de cette équipe du.
Je suis pas d'accord avec cette idée qu'il faut forcément des Racing Man.
Non mais je pense qu'il faut mettre en avant quand même si c'est une équipe qui est très collective.
Mais des fois tu peux avoir un collectif très fort.
Je suis d'accord avec toi, mais Max Spring est une individualité de cette équipe au milieu des Fidjiens monstrueux. Derrière, mais très irrégulier, tu sauvas Abossi, Naitouvi, Ravuta Omada. Il y a le petit Max Spring qui lui aussi est un des capitaines du Racing.
Qui a fait une bonne saison.
Qui démarre sa saison avec un triplé contre l'UBB où il avait vraiment impressionné, c'est sur la pelouse de Paris La Défense Arena. Il met ses 10 essais en 20 matchs quand même, Max Spring, dans des matchs importants, notamment à Clermont. Il joue à l'aile, il joue à l'arrière aussi, les deux avec autant d'efficacité. Et pour le coup, c'était un des seuls qui était systématiquement là à tous les matchs, qui est un des leaders aussi du Racing 92 et qui, je trouve, est un joueur très propre avec un très beau jeu au pied aussi. Donc voilà, il méritait citation pour moi.
Je suis d'accord. Alors, du coup, Eddy, Vainicolo, Spring, Bielbiaré, Nijashvili, tu dois en choisir deux.
Ouais, alors, évidemment, comme tout le monde, Vainicolo, évidemment, s'impose. Mais moi, je trouve assez dingue quand même de pas mettre Louis Bielbiaré dans l'équipe type qui est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas joué l'intégralité du top 14. Mais enfin, tu rappelais ses stats, Nico. Tu disais 15 matchs et 13 essais pour le champion d'Europe, meilleur joueur du 6 Nations. Enfin, même si, encore une fois, je vais voter pour lui. Je vais voter pour lui. Ouais. Je vais mettre Vainicolo et Louis Bielbiaré.
Moi je fais Wainicolo Nijashvili, mais je suis d'accord avec toi. C'est comme.
Oh là là,
non, mais ça joue à rien. Je mets Nijashvili, mais ça joue à rien.
Mais on verra la compo du banc de touche. Jus, tu mets qui? Wainicolo.
Wainicolo Nijashvili.
Pierrot.
Et pour légitimer sa place sur le banc, je mets Spring Nijashvili.
C'est le politique.
Alors, je retourne voir notre équipe des auditeurs. Qui on a? On a Vainicolo qui est élu à 45,6% devant Louis Bielbiaré. Ils ont suivi Eddy, les auditeurs des poteaux. Nijashvili est très loin derrière. Alors que c'est vrai qu'il fait une saison monstrueuse. Les trois quarts centres, pareil, on va couper les postes de 12 et de 13.
Là, il y a du monde.
Même si ils n'ont pas le diffuseur. Sachant que ce ne sont pas du tout les mêmes postes. Hein. 12 et 13, il y a de vraies spécificités malgré tout. Ouais. On a choisi.
Juste dans les ailiers, on aurait pu citer Arfeuille.
Oui, les Palois même. On aurait pu mériter. Globalement, les trois.
Dans les révélations de la saison, 20 matchs, 11 essais pour une première saison en top 14.
C'est énorme à 7
à Bordeaux. Non, vous savez quoi, il méritait citation. Il méritait.
Je l'avais pas mis, mais on va se la faire là. De toute manière, on n'est plus à 5 minutes près dans le podcast. On a pété tous les standards. Donc,
les gens ont plus de batterie sur leur téléphone là. Ils ont commencé.
Ils rajoutent des rubriques.
Si les gens ils sont partis dans le footing en disant on écoute le podcast pendant le footing, ils en sont à 1h15 de footing.
Allez, on s'accroche les gars, on s'accroche. Allez, 25 km.
C'est les départs en vacances. Les mecs traversent la France. Ils sont très heureux avec ce podcast.
Oui, gardez-le pour juillet. Juillet-août.
Accélère.
Fabien Broboiry, le Palois. Fabien Broboiry, Noah Néné, Stade Français, Joshua Tuisova, Racing 92, Calvin Gourgue. Voilà les quatre joueurs sélectionnés pour occuper les deux postes de centre. Eddy, Fabien Broboiry, c'est probablement une des plus belles histoires de la saison. Hein. Il fait une saison fabuleuse, Broboiry.
Ouais, une deuxième très très belle saison qui a confirmé déjà la première. C'est vrai que c'est aujourd'hui le régulateur de l'attaque paloise, avec quand même à ses côtés, vous le rappeliez messieurs, il y a quand même Mathis Saoubé, il y a Grandidier, il y a Arfeuille, il y a Emilien Gaëtan aussi international, qui a quand même connu sa première sélection au Pays de Galles avec un premier essai dès la 15e.
Ouais, 20 plaquages.
Il est aussi bon offensivement que défensivement. c'est aujourd'hui. Alors, on a évoqué, pour parler de Pau, évidemment, Gorgadze et Oradou pour le paquet d'avant. C'est vrai que dans la ligne de trois quarts, quand même, Fabien Broboiry a tout éclaté tout au long de cette saison. Hein, et je pense que le joueur va continuer avec cette section paloise dans ce groupe dans lequel il se sent bien. Donc, vraiment, élément aujourd'hui vraiment incontournable de cette équipe de Pau. Et pourquoi pas, enfin, Will pourra le confirmer des années à venir, parce qu'on le compare déjà depuis une ou deux saisons à Yannick Jozur, l'ancien Toulousain. C'est vrai qu'il est aujourd'hui sur des standards.
Un mix entre Yannick Jozur et un Fidjien de Tarbes, disait.
Non, mais il est d'une sérénité dans son jeu, Tu sens que le mec, quoi, il est pas, ça folle jamais. Un bagage technique, un placement, une justesse, il a tout. Il a tout, Broboiry.
Ouais, très fort. Très fort, Fabien Broboiry. Bon, attention, il y a quand même Yoram Moefana au poste de 12. Moi, je le glisse comme ça.
Il aurait pu postuler.
Ouais, mais il a été blessé
aussi, non ?
Tuisova, Pierrot qui.
Toujours là.
On a un petit groupe WhatsApp, nous, bien sûr, là c'est le rugby, on se fait tous les matchs du dimanche soir, on se débriefe tous les matchs du multi, vous imaginez bien. Et à chaque fois, Pierrot qui nous envoie un message sur Tuisova, c'est. Mais qu'est-ce que.
C'est un mangeur d'enfants. Toujours.
C'est le moment encore, ouais. Ça reste le centre le plus destructeur du championnat, Tuisova encore.
Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais pour moi, s'il est en forme, Tuisova, c'est le meilleur centre du championnat, point. En fait, il a des qualités physiques qui sont telles et une capacité à faire jouer derrière lui. Il va moins vite que quand il était à Toulon, évidemment. Il a moins ce côté électrique où il peut foudroyer un mec sur place avec une percussion. Mais il est utilisé systématiquement en premier attaquant au Racing.
Encore, je croyais que tu allais me dire il peut moins foudroyer sur un 4-deb. Par contre, sur une percussion, il peut toujours foudroyer.
Oui, mais il a moins ce côté où, à Toulon, on a l'impression qu'il pouvait envoyer l'adversaire à 3 mètres avec une percussion. Il y avait un côté où il dégageait, je trouve, une puissance brute. Mais c'est possible qu'il puisse encore le faire, mais il est beaucoup plus utilisé aussi comme un premier attaquant, et donc il rentre dans des murs systématiquement, mais le mur il s'ouvre une fois sur trois. Enfin, c'est dingue, et il use. Et franchement, contre Toulon, je me rappelle de cet essai contre Toulon à l'Arena où il franchit, il met un énorme raffut à Javakia, le deuxième ligne géorgien, et il arrive devant Mathis Ferté. Ferté dit non, il se décale et il le laisse aller marquer. Et
Ferté dit, c'est pas possible, changement.
Non, mais il va peut-être pas être élu parce qu'il il a moins de moments, je pense, marquants que d'autres cette saison, mais je trouve que c'est encore un joueur absolument incroyable.
Non, mais en fait, le truc avec Tuisova, c'est que les temps forts, les highlights sont sublimes, mais est-ce que sur l'ensemble d'une saison, tu vois, il est stable comme un Broboiry, comme un Calvin Gourde, comme un Noah Néné cette
Pour moi, il l'est, mais il a moins de moments marquants. Enfin, il porte moins son équipe aussi parce qu'il a bossé à côté de lui qui contribue à l'entreprise de destruction du Racing. Mais non, il fait vraiment une belle saison, Tuisova.
Il y a Calvin Gourgue aussi, bien évidemment, qui a été l'attraction du début.
C'est moins
saison,
sexy que Calvin Gourgue, par exemple, je trouve.
Ouais, c'est un peu moins sexy.
Calvin Gourgue.
Inconnu en début de saison, mais c'est déjà indispensable au Stade Toulousain. C'est lui qui va jouer les phases finales, Gourgue, hein, sur le poste de 13.
Attention avec Barassi. parce que ça peut, Choco Barrès il sera évidemment en point d'ancrage en 12, mais non, mais Calvin Gourgue, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec électrisé comme ça les parties, quoi. C'est à faire 40 mètres, 3 crochets inter avec les, voilà, ça lui a valu des sélections. À confirmer quand même, parce que sur les deux derniers mois, c'est 5 matchs seulement, 0 essai, donc il doit digérer Calvin Gourgue.
C'est ça.
Mais avec celui qu'on vient de citer juste avant, Brobouari Gourgue, vite, on a envie de voir quoi, en équipe de France. Quoi. Mettez-nous cet avenir-là avec ces deux-là. Quoi. Mais il doit évidemment confirmer et durer, mais il a un potentiel.
Physique et technique, hein, parce qu'il a aussi joué 10 et 15.
220
quand même,
volts,
enfin, c'est dingue.
Ah ouais, ouais, mais c'est. Techniquement, il a la misère, je devais mettre la misère à des défenses, mais c'est incroyable. Ouais,
la passe aussi qu'il fait contre l'Australie, elle est exceptionnelle. Pierrot parlait de la technique, ouais. Elle se voit sur cette passe-là. Hein, ouais. Parce que tout le monde
est annoncé depuis longtemps comme un phénomène dans les mains toulousains. Oui. voilà, chez les jeunes, vous en avez parlé de certains, il a eu ses soucis physiques, mais annoncé depuis longtemps. Voilà, Calvin Gourgue, c'est un nom qui revient depuis longtemps. Donc,
je digresse un peu parce que les gens sont à peine
au deuxième
péage dans leur trajet
de vacances.
C'est pas possible.
Non, mais t'imagines, on parlait du potentiel du réservoir au poste de 9, mais au poste de centre, là, parce qu'on n'a pas parlé de Nicolas Deporter. Il y aura Moefana, c'est jeune. Brobouari, Calvin Gourgue,
Noah Penaud qui joue au centre maintenant aussi.
Ouais. Gaëton. Non, mais si on pouvait être champion du monde.
C'est pour champion du monde, ça va.
T'imagines la densité.
Et le petit Dari Carrera à Clermont. Hein.
Très fort aussi.
Ouais,
très
bon aussi. Ouais, complètement. Tiens, et terminons avec Noah Néné. Noah Néné qui peut matcher sur les révélations de la saison aussi.
Oui, je suis d'accord. Il est pas prêt encore pour le très très haut niveau, on l'a vu même en équipe de France avec le Pays de Galles, et défensivement il y a encore des lacunes pour Noah Néné, mais pour moi c'est le joueur le plus excitant que j'ai vu cette saison, parce que quand il prend la balle, c'est lui aussi dégage une espèce de puissance où tu as l'impression qu'il est inarrêtable. Il sent le rugby, il sent les coups, il met 9 essais cette saison en top 14. Il a fait décaler Tani Vili au poste de 3ème ligne pour pouvoir mettre les 3 centres du Stade français très performants sur le terrain, et ouais, je trouve qu'avec sa foulée, enfin, il dégage une espèce de puissance dingue, et il va être très important pour le Stade français en phase finale. C'est un vrai joueur frisson, on pourrait dire, mais il y a encore du boulot pour être parmi les tout meilleurs du top 14.
Les copains ont fait quoi pour le poste de 12 et de 13? Brobouari paraît, indispensable, j'ai l'impression, à cette équipe type, non?
Moi, je mets Brobouari.
Ouais, Brobouari, et en 13, on
met Brobouari Gourgue.
Okay.
Moi, je trouve que Tuissova a été plus important pour le Racing que
donc en Gourgue. Tuissova, été,
j'aurais dit Brobouari Tuissova, mais il va pas gagner.
Brobouari Gourgue. Gourgue.
Voilà. Allez Gourgue, allez nickel Calvin Gourgue. Hop, les auditeurs des potos ont choisi quelle paire de centres. Ils ont choisi Brobouari 41,4% devant Tuissova. Ils ont suivi Pierre Thévenet.
Il regarde le top 14.
Bon, ça joue à rien avec Calvin.
Pour la première fois.
Jumel Note, Brobouari, Tuissova. Allez, le dernier poste de notre 15 titulaire. On y arrive, les amis. Le poste d'arrière, Tom Banks, le Montpellierain, Thomas Rameau, Stade Toulousain, Léo Barré, Stade Français. Je pense que là, on est assez unanime sur le fait qu'il n'y a pas forcément notre 15 qui pourrait venir matcher. Ouais, peut-être Amdaoui, Clermontois.
Non, il finit bien Amdaoui, mais il fait pas une grosse saison.
C'est pas une saison ultra pleine. J'ai l'impression que Banks est indispensable parce que temps de jeu énorme, parce que constance incroyable sur cette saison.
Alors pour le coup, lui, contrairement à Oulézé, il est vraiment recruté cette saison. Lui, c'est vraiment la meilleure recrue de la saison de Montpellier. Avec Plumeur, la meilleure recrue de la saison, je pense. Plumeur, Banks, c'est vraiment des bonnes pioches. Autant Plumeur, on arrivait à le suivre du côté de la Nouvelle-Zélande, autant Banks, il s'est perdu. Il est parti au Japon, il jouait en deuxième division japonaise. Et les Montpelliérains, après le départ de Morbi, qui ne s'était pas adapté à Montpellier, ont été obligés de trouver en urgence un arrière.
Mais on qui a trouvé Banks Tom au Japon Banks. Quoi.
Ouais, c'est ça. Donc la cellule de recrutement,
c'est un peu comme Hughes, hein,
c'est ça. Ils ont dit à Codulo, mais voilà, on a un arrière là, un international australien capable
de faire sauter la Banks.
Et donc c'est le il a joué les 19 premiers matchs en intégralité. C'est le joueur qui a le plus joué de minutes cette saison, 1979 minutes. toujours titulaire, ménagé une fois lorsqu'ils avaient été à Toulouse, mais capacité de relance, 2000 mètres, plus de 2000 mètres balle en main, une longueur de jeu au pied incroyable, sur les ballons hauts, ouais, joueur complet, vraiment impressionnant, qui a joué quasiment plus cette saison que sur les deux dernières saisons et qui semble jamais fatigué et ouais. Qui est vraiment une excellente recrue côté Montpellier-Rennes.
Bon, on a l'impression qu'il a plié le game là pour ce poste d'arrière. Est-ce qu'il n'y a pas Thomas Ramos? J'ai l'impression que Léo Barré est un peu plus en frais, les amis. Ouais, plus
moi, Barré Ramos, je les mets au même niveau sur la saison, hein, bien sûr. ne me faites pas dire ça.
Ah, tu veux dire les deux, Ramos et Barré?
Oui, pour moi, Banks est au-dessus. Et en tout cas, Barré fait vraiment une belle saison. Hein. 11 essais en 24 matchs de top 14.
Et il reste 5 minutes à jouer dans un match, tu prends Barré ou Ramos?
Ramos, mais c'est pas ça le sujet.
C'est pas la même question.
Et devant Banks.
Et devant Banks aussi d'ailleurs, oui.
Oui, c'est vrai.
Et mais non, mais il a un rôle presque de deuxième ouvreur au Stade Français où c'est souvent lui qui initie les coups à Paris et il fait vraiment une belle saison. Donc c'était important de le nommer, mais pour moi, Banks fait une meilleure année.
Après, Ramos fait du Ramos. Hein, ouais. C'est 15 matchs, c'est moins que Banks. Mais il en a fait 14 la saison dernière et 13 la saison d'avant. Donc, au niveau de points, 151, ouais, les dernières 219 et il y a deux ans, 155. C'est fluctuant selon ses matchs en équipe de France. Mais moi, j'ai vu faire des matchs stratosphériques. Souvenez-vous, vous avez oublié la première journée, là, ce qu'il fait à Clermont, là, au Michelin, Thomas Ramos, là, avec cette passe au pied extérieur, là, ce coup de pied banane, là. Et puis, il l'a fait plein de fois cette année. Thomas Ramos n'a pas faibli.
Il n'est pas en dessous. Il n'est pas en dessous de ses standards.
Non. Il rate là contre Lyon, il rate son match sur la fin, mais non. À chaque fois qu'il a été utilisé, il fait 15 matchs de top 14, mais il en fait 29 en tout. Il marque 336 points, toutes compétitions confondues cette année. Et voilà, donc on met de côté tournoi et Coupe d'Europe, on l'a dit. Mais on peut pas dire que Thomas Ramos est en dessous de ses
standards. Toulouse a écrasé la saison régulière quand même aussi, il faut le rappeler. Hein.
Ouais, Toulouse est au-dessus de tout le monde, donc 14. Donc, en nombre d'essais, en points marqués, c'est des records, ils ont battu des records. Et Thomas Ramos y est pour quelque chose. Alors je suis d'accord que Banks a été plus utilisé toute la saison, et Ramos peut pas matcher là-dessus, mais vous pouvez pas l'enlever derrière.
Non, mais le débat, c'est pas de dire que Thomas Ramos est à ranger et à mettre
non,
au placard.
Non, mais on va parler sur le banc, peut-être.
C'est savoir s'il peut concurrencer Banks. Oui, bah voilà, est-ce qu'il peut aller sur le banc? On fait quoi, du coup? Tom Banks, c'est une évidence sur le poste de 15, les gars?
Oui, Banks sur l'ensemble de la saison, sur la durée de la saison.
On est d'accord. Eddy, toi, t'as envie de mettre Ramos, je sens, mais...
Ouais, parce qu'encore une fois, on banalise cette saison du Stade Toulousain parce qu'ils étaient qualifiés pour les demi-finales il y a déjà pas mal de semaines. On parle plus de Toulouse, mais Will le rappelait, grâce à Ramos aussi, Toulouse a éclaté tous ses records. Donc Banks pour la régularité et pour le nombre de matchs joués, mais allez, un petit avantage à Banks, mais vraiment Ramos dans les échappements de l'arrière Montpellier à mes yeux.
Sachez que t'es mesmer, Eddy, parce que les auditeurs ont fait exactement ça. Thomas Ramos est élu quand même, mesmer. À 48,1%. Mais il y a Tom Banks qui est juste derrière. Voilà, tiens, on a terminé notre 15, les amis. Je vous fais le 15 de.
Ça fait 3 heures.
Allez, écoute.
Et vous êtes arrivés à votre camping. Vous êtes arrivés à votre camping pour les vacances, c'est
voilà,
parfait.
Si vous êtes arrivés au camping, sinon vous pouvez vous arrêter sur une petite aire d'autoroute.
Allez,
vous pouvez un petit
compo.
Triangle. On y va. Enzo Forletta, numéro 1. Jordan Ouellezé, numéro 2. Garage à poulet, Melikidze, numéro 3, Hugo Oradou, numéro 4, Thibaut Flamand en deuxième ligne, numéro 5, on a Cameron Moutier, Jack Willis en troisième ligne, flanqueur, Billy Vunipola numéro 8, Nolan Le Garec à la charnière avec Harry Plummer, Vaille Nicolo et Nina Jvili sur les ailes, Bro Boiry, Calvin Gourgue au centre et donc Tom Banks à l'arrière. Elle a de la gueule, cette équipe type. On a un banc de touche. Alors le banc de touche, je l'ai. Il est où le banc de touche? Attends, je l'ai supprimé, je crois, le banc de touche. Vous l'avez le banc de touche, les gars?
Oui, attends, je te le trouve.
On a Akaladze. Non.
Akaladze.
Marchand.
Cherchez votre emplacement Akaladze. Pour le camping-car en attendant.
Marchand, Akaladze, Ong Patin, Florian Vérag, Lenny Nouchi pour finir le pack, et Maxime Lucu, Mathieu Jalibert et Max Spring.
Merci beaucoup.
Qui
les amis.
Max Spring, l'arrière ailier du Racing 92.
Ah. Ah oui.
Donc plus que Ramos.
Ouais, et plus que Bielbiar.
Je lâche pas. Hein,
non, je vois ça.
On a sorti Thomas Ramos du Mantouche. Vous retrouvez cette équipe type, bien évidemment, sur le digital et rmcsport.fr. Les gars, les derniers débats de ce podcast, parce qu'on n'a pas terminé encore. Qui est le MVP du top 14 version 2025-2026
MVP de cette équipe, ouais.
J'ai sorti 5 joueurs. Jack Willis, Le Garec, Plummer, Vunipola, Vainicolo. Qu'est-ce qu'on fait?
Plummer.
Ça se joue entre Plummer et Vunipola.
Moi, je vote
Plummer. Deux écoles, Julien.
Attends, mais.
Non, faut trancher, les gars. Faut trancher.
Vous votez.
Ouais, mais là, le problème, c'est que la saison, elle est pas terminée.
Non, mais c'est saison régulière.
Ouais,
non,
c'est la saison régulière.
La saison régulière.
Eh oui, mais.
Bah non, mais.
Tranche,
pas de oui, mais.
Non, mais là, c'est
parce que j'ai dit, vas-y.
Sur non, l'entendu de Rémi pour changer les règles, on peut les
goals. Non, mais si la Machère est champion de France, vous n'y
pouvez pas. Non, mais arrête, Eddy a dit Plummer. Eddy a dit Plummer, c'est bon, donc c'est plié.
Allez.
Donc,
Harry Plummer, tu dis Vunipola si tu veux. Moi j'aurais mis Billy Vunipola.
Non, mais tu as le droit de dire Vunipola et de choisir Vunipola. Mais
pour moi, il y a match entre les deux, mais comme sur une saison, il y a des phases finales après. Je pense que ça pourra compter pour le MVP de la saison complète. Parce que le MVP, c'est
Mais ce sera MVP Finals. Voilà, là on est sur
ce qui
c'est pas comme en NBA. Si il y a le NBA MVP saison régulière et MVP finals.
Quand le diffuseur va choisir le meilleur joueur, et les phases finales vont compter.
La révélation de cette saison, on avait dit donc Harfeuil, Kelvin Gourgue, qui on a mentionné d'autres.
Néné.
Noah Néné et il y en avait un autre, il y en avait Despérès.
Ouais, Kelvin Gourgue. Harfeuil. Ouais, vraiment, franchement.
Moi je mets Gourgue aussi sur la saison, il a découvert les bons
jeux. Will.
Ouais.
Non mais Gourgue aussi.
Allez, Gourgue, révélation de cette saison 25-26. Est-ce qu'il y a un absent là qui aurait dû absolument être dans le 15 et on l'a pas mis? Lucu, Jalibert, LBB, Ramos, Marchand. Je trouve qu'elle est cohérente notre équipe. Hein. Avec ça, on va chercher un bonus.
Oui, parce que j'ai du mal. J'avais mis aucun peut-être. LBB peut-être.
LBB peut-être, mais pour moi, il est pas. Enfin, c'est un grand absent, mais il y a mieux plus sur la saison, je trouve. Donc.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a un absent là dans les 23, un joueur qui se dégage qu'on n'a pas nommé qui aurait dû y être? Est-ce que vous avez une petite propale là?
Aldrit.
Je pense qu'on a raté.
Aldrit ou Jono?
Gogi Chachvili.
Ah oui, peut-être, Gogi Chachvili, c'est vrai. Allez. Allez, on peut se le mettre.
Qui c'est notre remplaçant en cas... pilier gauche
Akaladze.
Je l'ai plus.
Akaladze.
Akaladze, c'est vrai. Ouais, non, c'est non, pas. Mais... Y a pas... On a non, pas mais
elle est très bien cette équipe. Elle est
dit.
Très bien cette équipe.
Mais non, mais elle est très bien cette équipe. Ma dernière question n'était pas bonne. Non, mais ça fait une heure et demie qu'on a essayé d'être la meilleure équipe possible.
Et après, tu dis, est-ce qu'il y a un mec qui
sort de nulle part? Ça n'a aucun sens. Bon, les amis, merci beaucoup.
Non, tu devais donner l'équipe type des auditeurs quand même, non?
Ah oui,
c'est ce que tu avais mis, mais.
C'est ce que j'avais mis.
Peut-être savoir ce que les auditeurs ont mis.
Mais... Akaladze, pilier gauche pour nos auditeurs. Julien Marchand est talonneur. Garage à poulet est toujours numéro 3. Oradou et.
Verrag, ils avaient choisi. Ligne.
Verrag, pardon, excuse-moi, oui, je me suis noté. Verrag avec Thibaut Flamand. On avait en troisième ligne sur les ailes Nouchi Willis, flanqueur. On avait vu Nipola, numéro 8. On a Maxime Lucu, qui est titulaire à la charnière pour nos auditeurs, avec Harry Plummer en 10. On a Vainicolo et Bielbiaret sur les ailes. Broboiri Tuissova au centre. Et on a Thomas Ramos. Alors, elle a de la gueule.
Oui, c'est pas mal.
C'est très bien d'avoir ces petites différences et tout. On peut en débattre avec eux.
Peut-être que même l'équipe des auditeurs a plus de chances d'être. Chance d'être championne de France, celle des auditeurs que la nôtre. Parce qu'avec Lucu et Ramos, quand même, tu voyages pour les phases finales.
Ouais, c'est sûr,
oui,
c'est clair.
Oui, mais écoute, c'est bien. C'est non, mais bien. C'est vrai. Nous, c'est vraiment et les 26
Biarré,
journées. C'est,
voilà, Pierre Biarré va et Nicolo sur les ailes, et ils rigolent pas les autres.
Ah oui, ça va. Voilà.
Bon, c'est pas mal.
Bravo,
amis,
en tout
écoutez,
cas.
Merci
de,
beaucoup.
Bravo pour toute cette année d'équipe type. Magnifique.
Oui, vous pouvez retrouver le papier complet là sur le site rmcsport.fr. Il faut juste qu'on le mette en ligne et qu'on affine 2-3 trucs, mais on va le faire. Et on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous quand? Bah, vendredi pour l'apéro des poteaux, spécial barrage. On va vous présenter tous les barrages du top 14. Vous restez connectés. On vous dit à très vite. Si vous êtes arrivé sur votre lieu de vacances, ça se trouve, ils ont eu le temps de se mettre le podcast à l'aller et au retour. Hein. Le podcast a fait les deux trajets. Hein. Ça, c'est très fort.
Et là, si vous êtes en train de courir, vous avez fait une perf. On peut vous le dire. Si vous étiez parti pour 45, vous avez doublé le temps.
Là. 3h10, vous pouvez vous inscrire à un marathon, les amis, c'est bon, là vous êtes prêts. Allez, ciao, bye, à très vite.
Entre les poteaux.